J'ai le micro, je le garde et je vais parler. Donc bonsoir et donc bienvenue pour ce débat organisé donc comme vous voyez par la Ligue de l'enseignement de la Vienne avec l'espace Mendès France et donc aussi avec la collaboration ce soir du Club de la Presse 86 que je représente avec la présence dans la salle d'autres membres du Club de la Presse, Christian Tual, le secrétaire général, Laurence qui est là-bas, et Monsieur Biron qui est derrière aussi, et d'autres. Voilà. Donc on s'est proposé avec le club de co-animer ce débat, puisque c'est vrai que ça, ce thème nous rassemble, les journalistes et leur public, parce que c'est vrai que c'est un débat que nous, journalistes, qui sommes à la tribune, et les journalistes en général ont un débat, le journaliste et leur public, c'est un débat qu'on a un peu tous les jours, quand on est sur le terrain, quand on est en reportage, et c'est souvent quelque chose auquel on discute avec les gens, et c'est souvent assez passionné. Alors, donc, j'ai présentation, animation, donc moi je me présente, donc je suis Luc Barré, je suis journaliste à France Télévisions, France 3 plus précisément, et donc aussi membre du Club de la Presse 86. Alors, donc pour ce débat, donc, les journalistes et leur public, il y a un mot qu'on aurait pu rajouter directement et qui est en référence à un ouvrage de Jean-Marie Charon, qui est le grand malentendu, donc le mot qu'on aurait pu rajouter, les journalistes et leur public, le malentendu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, souvent, d'incompréhension entre les journalistes et leur public. Alors, ça peut être un mal entendu ou un malentendu en un mot ou en deux mots. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'en débattre ce soir sur ce thème. Et donc, le livre de Jean-Marie Charon, donc Les journalistes et leur public, un livre très intéressant là-dessus qui aborde beaucoup de problématiques sur ce thème et qui est très intéressant. Alors, c'est vrai que ce soir, on ne pourra pas tout aborder. Oui, Jean-Marie Charon, qui est sociologue des médias, chercheur au CNRS, qui est très connu pour les journalistes, enfin du côté des journalistes, parce que il a écrit beaucoup d'ouvrages sur les médias et sur la presse et le journalisme en général. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent s'intéresser un peu à cette profession, lui, c'est vrai qu'il a un regard qui est assez intéressant et ça permet d'avoir de bons éléments de réflexion. Donc ce grand malentendu qui est avec un discrédit argumenté, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être prises en compte dans ce malentendu. On a pris quelques exemples par rapport au manque de fiabilité dans les petites choses, ce qui donne donc pas confiance pour les grandes choses qui sont traitées. Traitement du fait divers trop caricatural, sans respect des personnes. Une concurrence créatrice de surenchères et de voyeurisme, on le voit surtout en ce moment avec une concurrence dans les télévisions, avec les chaînes Tout Info, avec et aussi, alors si on veut aller aussi par là, les médias sociaux qui restent des médias. Alors après, on appelle du journalisme citoyen, on appelle donc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur dans ce thème-là, et aussi le refus d'accepter la critique. Je pense que ça, c'est peut-être commun à beaucoup de professions. Mais c'est vrai que du côté des journalistes aussi, il peut y avoir un refus de ne pas accepter certaines critiques qui sont souvent constructives, mais certaines qui ne le sont pas aussi. Donc ce grand malentendu aussi, c'est un discrédit daté. C'est vrai qu'on a en tête beaucoup d'événements qui ont fait que les journalistes et le public, il y a eu une distance qui s'est créée, notamment donc on le voit avec Timmy Chouara, pour ceux qui se souviennent du traitement qui avait été fait avec le charnier. Il y avait des chiffres qui sont sortis, des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées par le gouvernement, enfin le responsable en place, Ceausescu. Donc après, les chiffres ont été revus à la baisse, donc beaucoup de choses ont été dites. La guerre du Golfe, c'est un cas d'école, on peut dire, donc avec des journalistes qui n'étaient pas forcément sur place, avec des images qui n'étaient pas forcément des images de guerre sur place. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Donc la présidentielle 2002, Jospin battu, le référendum sur l'Europe, donc il y a eu la cassure entre l'élite et le peuple, la guerre d'Irak, les journalistes aussi exclus des universités, grèves et banlieues en 2007-2008. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont été très médiatisés, qui ont entretenu ce malentendu. Alors donc, pour essayer d'en sortir, c'est très ambitieux, mais ce soir, on va essayer déjà d'aborder certaines choses pour expliquer un peu tout ça. Donc là, un intermédiaire patenté, le médiateur, c'est vrai que c'est une profession qui est apparue il y a quelques années pour justement faire le lien entre le public et les journalistes. Donc le profil, comme vous voyez, donc du médiateur, un journaliste confirmé, c'est, j'allais dire obligatoirement journaliste, puisqu'il comme ça, il connaît la profession, et pour justement être le lien entre les deux, pour expliquer, Jean-Claude Alanic vous en parlera tout à l'heure, qui lui a été médiateur quelques années, une personne donc qui est à l'écoute du public, qui est en prise avec sa rédaction, donc justement pour rapporter les choses, pour être juste quand il reçoit des messages du public, pour que la rédaction en chef et les journalistes puissent être au courant. Un journaliste donc indépendant de la direction et disposant d'une tribune, article ou émission qui permet justement de pouvoir en parler, de pouvoir partager justement tout ça avec le public. Et en quelque sorte, c'est un vulgarisateur. Alors c'est vrai que tout journaliste aussi est un vulgarisateur, puisqu'il y a des spécialisés, mais c'est vrai que nous, enfin la profession, on essaye d'expliquer les choses aux gens, on vulgarise, c'est pas péjoratif, pour essayer de faire comprendre. Donc là, c'est vrai que le médiateur a vraiment cette fonction pour bien faire comprendre les choses sans que ça soit, que ça soit à la portée de tout le monde, quoi. Et donc, l'autre intervenant, donc, discuter, donc le public, et ce que je parlais tout à l'heure, le journalisme participatif et aussi le journalisme interactif, c'est vrai qu'il y a besoin entre les journalistes et le public d'avoir ce lien qui permet justement de partager et de pouvoir comprendre, et parce que beaucoup de questions se posent sur des événements, et c'est vrai qu'on aime bien avoir des réponses, enfin, le public, et c'est vrai que les journalistes, c'est intéressant d'apporter ces réponses qu'on ne donne pas toujours lorsque on fait des sujets, quoi. Donc voilà, les réticences classiques, pas de diktat du public et pas d'ordre des journalistes. Alors ça, c'est, on pourra aussi l'aborder avec Yves Agnès, qui est représentant ici d'une association, donc l'APCP, l'association, ça y est, j'ai perdu, voilà, pour la configuration d'un conseil de presse. Donc c'est un peu dans l'esprit d'un ordre qui pourrait s'apparenter, comme vous connaissez, pour les médecins, pour les avocats, pour un code déontologique. Alors justement, pour en débattre ce soir, donc deux personnes du métier, deux journalistes qui vont nous en parler, donc Jean-Claude Alanic, que vous connaissez, j'allais dire, de l'image, puisque la télé, voilà, il y a l'image, et quand on a été devant la caméra, souvent il y a des têtes qui marquent. Donc Jean-Claude Alanic qui a été 3 ans donc, à 50 millions de consommateurs, à France 2, donc de 1977 à 2005, qui a été présentateur, grand reporter, enfin qui est toujours grand reporter, toujours journaliste, chef du service science, donc à l'Espace Mendès France, c'est logique. Donc qui a été donc médiateur au sein de France 2 de 2000 à 2005 et qui est aujourd'hui donc enseignant dans les écoles de journalisme et qui est expert à l'international. Il vous dira tout ça tout à l'heure. Et donc notre deuxième invité ce soir, qui est Yves Agnès, journaliste, auteur, formateur. Donc il était chef de la rédaction à Ouest France, rédacteur en chef au Monde, chef de rédaction, puisqu'il y a plusieurs rédactions. Mais ça, c'est vrai que bon, pour le public, on ne sait pas toujours. Rédacteur en chef au Monde, directeur du Centre de formation des journalistes, auteur de plusieurs ouvrages, donc Lire le journal, Le grand bazar de l'info, Manuel de journalisme. Et ils ont fait la presse et donc président de l'APCP, ce que je disais tout à l'heure, l'association pour la configuration d'un conseil, de préfiguration d'un conseil de presse. Voilà, donc pour ce petit diaporama, voilà, que je ne maîtrise pas totalement, puisque voilà. Voilà, donc nos deux invités qui vont ce soir vous aider un peu à comprendre le métier de journaliste, les médias, et justement ce qui va permettre d'avoir cette interactivité et ce débat justement sur cette relation entre les journalistes et le public. Alors, dans l'ordre des choses, c'est vrai qu'ils vont se représenter et expliquer un peu leur profession, notamment pour Jean-Claude Alani qui a été médiateur, enfin une fonction, parce que profession journaliste, et donc après Yves Agnès qui nous parlera donc plus précisément du public et cette instance de médiation par rapport à cette préfiguration d'un conseil de presse au niveau déontologique. Donc là, je vais laisser la parole à Jean-Claude Alani.
Bonjour, c'est le bon micro, ça fonctionne, tout va bien, les caméras sont en place. Donc bonjour à tous. Alors je vais d'une part, très rapidement, rappeler que la médiation en matière de journalisme, c'est une idée qui nous vient des États-Unis, qui remonte au 19e siècle, donc c'est une idée qui est assez ancienne. Au début du 20e siècle, George Pulitzer, pardon, qui est connu pour son prix, qui récompense des journalistes de talent, avait travaillé au journal, à l'hebdomadaire New Yorker, à New York, et il avait créé un bureau de vérification des informations et de rectification des informations, des erreurs. Donc c'était en quelque sorte l'ancêtre des médiateurs. En France, donc, comme l'a expliqué Luc, l'idée d'avoir un médiateur dans un journal, ou une médiatrice évidemment, remonte à notamment la guerre du Golfe, etc. Tout ceci a été bien expliqué. Les médiateurs ont cette particularité d'avoir une mère et deux pères. C'est des choses qui arrivent parfois. Je ne sais pas si c'est très scientifique. Et donc la mère, c'était Madame de Trottmann, qui était ministre de la Culture, qui avait eu cette idée, enfin qui était dans l'air, qui existe aussi naturellement en Europe, dans un certain nombre d'autres pays. Et les deux pères, ben là, il y a Jean-Marie Charon, justement, qui est un des concepteurs de la médiation en France. Et puis moi, je considère qu'il y a un deuxième père, qui est Didier Pellebaum, qui est celui qui a introduit la médiation France Télévisions, qui ne s'appelait pas à l'époque France Télévisions, mais qui s'appelait France 2, France 3. Tu veux être le troisième père, non ?
Non, tu parles de l'audiovisuel.
Je parle de l'audiovisuel, mais j'allais... Et comme je suis un journaliste talentueux, puisque je suis de l'audiovisuel, je n'oublie pas les petits frères de la presse écrite. Et j'allais dire que le premier médiateur a été créé au Monde. Voilà, hein, donc pour faire plaisir, donc a été créé au Monde. Libération a failli créer un poste de médiateur et ils ont réfléchi en se disant que ce n'était pas forcément utile. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de médiateur, mais ils ont une démarche qui est très intéressante, qui consiste quand il y a un problème qui se pose, une erreur de légende, une photo qui est ambiguë, une erreur sur un titre ou autre, ils reviennent eux-mêmes directement dans les colonnes du journal sur cette interrogation, enfin, ce faux pas qui a été commis par la rédaction. Donc, ce cas particulier pour Libération. Donc, à France Télévisions, c'est en 98 qu'il y a eu le premier médiateur à France 2 avec Didier et Pellebaum. Et puis, j'ai été médiateur donc, de 2000 à 2005 pendant 5 ans. Alors, quand je suis un peu pessimiste, je me dis quels sont mes souvenirs de médiateur. Mes principaux souvenirs, c'est quand on me croisait dans les couloirs de la rédaction, que je disais, voilà, les téléspectateurs se plaignent telle chose, ils nous emmerdent. Parfois, il y avait une version un peu différente, c'est tu nous emmerdes. Et la troisième version, c'était nous, on a une carte de presse et pas eux. Donc, naturellement, ce n'étaient pas les meilleurs journalistes, ceux qui avaient vraiment conscience qu'on travaille pour un public qui, par ailleurs, nous fait vivre. La majorité des journalistes de France 2, heureusement, ne réagissaient pas comme ça. Je vais vous parler de France 2, peut-être t'entends de France 3, mais enfin, moi, mon expérience, c'est sur France 2. Tout ça pour vous dire qu'être médiateur, ce n'est pas une sinécure. Au bout de 5 ans, je commençais à craquer sérieusement. Donc, c'est de moi-même, j'ai décidé de ne pas demander un renouvellement de mon mandat et de partir vers des horizons plus sympathiques, plus détendus. J'ai même, donc c'est pour ça que j'ai quitté France 2, on m'a même proposé un placard doré. Il y a beaucoup de placards dorés à la télévision, mais les placards dorés, bon, ça me branchait pas trop. Alors, je vais essayer de vous dire en 3 points, donc, qu'est-ce que vraiment un médiateur, qu'est-ce qu'il fait et à quoi il sert, s'il sert à quelque chose, question qu'on se pose parfois. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je n'ai servi à rien pendant 5 ans, ça serait un peu désespérant. Donc j'ai servi un peu à quelque chose. Mes confrères qui m'ont précédé ou ceux qui m'ont succédé ou mes confrères ou consoeurs servent aussi à quelque chose. C'est sûrement pas suffisant. Et c'est pour ça que, comme je tiens beaucoup à être très sympathique à l'égard d'Yves Agnès, donc le premier médiateur, c'était Au Monde. Et puis Yves est le père, encore un père, de cette idée de créer un conseil de presse en France. Hein, qui serait... Non, il ne veut pas être le père. Oui. Non, mais c'est quand même...
Jean-Bertrand, si tu veux.
Oui, mais enfin, c'est lui qui préside l'association. Il est modeste, hein, finalement. Ce n'est pas comme à la télé, la presse écrite. C'est un petit peu différent comme mentalité. Donc, je reviens plus sérieusement à mes moutons. Donc, qu'est-ce qu'un médiateur? Il a été dit que c'était un journaliste, évidemment, puisqu'il doit connaître les ficelles du métier, qui est chargé d'être à l'écoute du public pour répondre aux critiques du public, parce qu'il y a naturellement un certain nombre de critiques, dans le but d'améliorer la qualité du traitement de l'information. Le but, ce n'est pas simplement de s'auto-flageller, de dire ah, qu'est-ce qu'on est mauvais. Non, c'est de dire là, on n'a pas fait des choses correctement, ou alors le public n'a pas compris comment on travaille ou ce qu'on a voulu faire. Alors parfois, il arrive, ça c'est le truc basique. J'ai un exemple, j'aurais pu le venir avec. L'assassinat de Nicholas Berg, l'otage américain en Irak, on avait fait un reportage sur place, comment réagissaient les gens à Bagdad, puisqu'on avait une équipe qui était sur place. Et donc, ils ont fait leur reportage, ils ont interrogé des gens dans la rue, à la terrasse des cafés, et notamment dans les cafés là-bas, ils font des sandwichs, vous savez, avec les charwama. Hein, donc, ils ont des grands couteaux, ils coupent la viande, etc. Pour illustrer quelqu'un qui avait été égorgé, c'était pas franchement les images les plus sympathiques. Donc, comme on était à 2 minutes de l'antenne, le sujet était mixé, la rédactrice en chef a dit « on ne peut pas passer ce grand couteau qu'il est en train d'aiguiser, etc. Ça ne va pas du tout. On va supprimer ce grand couteau. » Mais il y avait un problème technique, qui était un problème d'image qui était supprimé, comme le son était existant et mixé. Donc, il a fallu, en fait, supprimer ce plan et rallonger les autres plans en faisant un petit ralenti. Mais les autres plans, c'était un couteau qui coupait la viande. On ne l'aiguisait plus, c'était mieux, mais il coupait la viande. Naturellement, les téléspectateurs voient ça tout de suite. C'est scandaleux, France 2, journaliste racoleur, hein, vous voulez faire du spectacle, vous faites exprès de faire un ralenti sur le couteau, alors que c'était purement, la rédaction en chef s'est expliqué dans l'émission, c'était au départ un problème, une erreur journalistique, mais involontaire, qu'on a voulu rectifier, et en voulant la rectifier, on a aggravé la situation. Mais tout ça se fait en quelques minutes. Donc c'est important d'expliquer aux téléspectateurs, voilà comment on travaille. Donc là, c'est une erreur technique. D'autres fois, dans la hiérarchie de l'information, on peut être critiqué. Alors, j'étais à l'époque, je n'étais pas médiateur, il n'y a pas de médiateur à France 2, heureusement pour moi. Je m'occupais de sciences et techniques, et MIR avait beaucoup de problèmes dans le ciel. Donc il y avait eu un incendie, il y avait une collision avec le cargo ravitailleur, etc. Et on m'avait envoyé donc à Moscou pour être plus près de l'information. C'est mieux de faire l'information sur place plutôt qu'à Paris, ou à Poitiers, je ne sais pas. Mais maintenant, la tendance, c'est pourquoi se déplacer, puisque les images arrivent de tout le pays, de tous les coins de la planète. Donc, on fait les commentaires sur place avec l'AFP, avec les fantasmes du présentateur ou du rédacteur en chef ou du directeur. Donc, on a une information qui est bien française. Mais le but du journaliste, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe sur place et non pas de retricoter l'information telle qu'on la verrait à travers les yeux et les préoccupations des Français. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc j'étais au centre de contrôle de Moscou, pour être le plus près des informations. Et on avait tourné, les Russes nous donnaient des images, on avait fait des interviews et tout. Et on faisait le montage dans une salle du centre, où il n'y avait pas d'horloge. Et quand on travaille, je n'ai pas vu passer l'heure, qui n'était pas la même heure qu'à Paris. Enfin, ça fait peut-être des difficultés toutes bêtes, mais à Moscou, ce n'est pas la même heure qu'à Paris. Donc je pensais que j'avais encore le temps. Et quand j'ai levé le nez, il était 20h02. Et comme le journal commence à 20h, on était mal parti. Et eux, ils avaient prévu l'ouverture avec le sujet. Donc il n'y a pas eu de sujet. Naturellement, ils ont été obligés de prendre autre chose. Et peut-être que les téléspectateurs se sont dit, mais ils sont débiles, l'information importante, c'est celle-là, pourquoi ils ne commencent pas par l'information importante? Donc c'est ça aussi qu'on est chargé d'expliquer aux téléspectateurs. Alors, expliquer que le journaliste, c'est quelqu'un de bien, évidemment, de très cultivé, il sait tout, mais comme naturellement il n'est pas possible de tout savoir, avant, à moins d'être un génie total, mais bon, je pense que ça serait si on était tous des génies, il y en a certains d'entre nous qui en sont, évidemment, mais pas tous. Donc, on ne peut pas tout savoir, on n'a pas la science infuse. Donc, forcément, on commet des erreurs. Et c'est ce que disait là, le truc classique, c'est le genre de dire, ah, j'aime beaucoup, on va dire, votre chaîne. J'aime beaucoup votre chaîne, c'est formidable. Mais alors, il y a un truc qui me tracasse. Dès que vous parlez de quelque chose que je connais, il y a une erreur. Hein? Alors, je me demande si ce n'est pas le cas pour les autres sujets que je ne connais pas. Donc, c'est un vrai problème de ce métier. Ce n'est pas entièrement de notre faute, ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas entièrement de notre faute, hein, parce que c'est la nécessité de travailler vite. On n'est pas des historiens, ou sinon des historiens de l'instant, c'est-à-dire c'est exactement le contraire d'un historien. On est dans une information qui évolue constamment. On est dans une sorte, je peux le dire ici, parce que c'est un peu le pays de Ségolène Royal, d'éphéméréité. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, bon, je me suis dit, je vais tenter ici, ça peut passer. Les choses sont éphémères. Donc, c'est la nature de ce métier. C'est aux téléspectateurs, les lecteurs aussi, évidemment, d'être aussi éduqués, de faire marcher leur cerveau, qu'ils aient aussi à l'école une éducation aux médias, etc., pour leur apprendre à exercer un esprit critique. Esprit critique, ça ne veut pas dire esprit de dénigrement, de dénonciation. C'est simplement avoir les clés, y compris pour rectifier, si on veut, les erreurs des journalistes. Dans quel cas il faut avoir des médiateurs ? Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. On recensait tout à l'heure, il y en a à peu près une dizaine actuellement. Bon, il y en a aussi peut-être plus dans les pays anglo-saxons, allemands, de l'Europe du Nord, au Canada, enfin, au Québec, un peu moins. Enfin, il y en a aussi quand même pas mal aux États-Unis. Puis il y en a au Mexique, au Japon, dans divers pays. C'est certain que si on est absolument parfait, on n'a pas besoin d'un médiateur. Alors, si vous connaissez un journal parfait, inutile d'avoir un médiateur. Comme il y en a beaucoup qui n'ont pas de médiateur, c'est peut-être qu'ils sont parfaits. Il n'y a pas besoin de médiateur aussi s'ils sont très imparfaits. Il est évident qu'un médiateur à Voici, ça n'aurait pas de sens. Parce que dira, non, c'est pas bien de parler de la vie privée des gens. Ce que vous avez dit est un mensonge. C'est pas vrai. Regardez votre titre, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de médiateur. Le médiateur, il est là quand il y a un consensus, déjà dans une rédaction. Et en quelque sorte, le médiateur va se transformer en avocat du public auprès des journalistes et en avocat des journalistes auprès du public. On dit parfois l'interface, je trouve que ça fait bien, ça fait moderne aussi. Enfin, c'est peut-être un peu dépassé de parler d'interface maintenant. Donc le médiateur, pour être efficace, ça a été dit aussi, mais j'insiste un peu là-dessus, il doit être indépendant de toute hiérarchie, ça c'est important. Il est inamovible pendant la durée de son mandat. Et moi je rajoute une condition qui en fait a été quasiment supprimée maintenant dans tous les postes de médiateur. Il doit être non renouvelable. Le problème maintenant, presque tous les médiateurs sont renouvelables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi c'est le cas, au bout de 5 ans, je m'étais fait pas mal d'amis qui sont redevenus d'ailleurs des amis. Ça c'est bien. Parce que pas mal d'amis qui étaient devenus des ennemis et puis après ils sont redevenus des amis. Donc ça veut dire que si on est renouvelé, ou on espère être renouvelé, il faut faire plaisir à la direction, à la présidence qui va vous renommer. Sinon, ils vont dire non, on va faire appel à un plus jeune. Et il faut aussi faire plaisir à la rédaction, faire attention à qui on s'adresse, qui on critique, en sachant qu'à la télévision, contrairement au monde, ce ne sont que des stars, que des gens qu'on voit à la télévision. Donc, ils sont conscients d'être des gens très importants, qui ont un ego qui est très, très développé. Et en plus, c'est vrai. Je me souviens une fois, un présentateur avait parlé d'un voyage de Chirac dans l'océan, à La Réunion, dans l'océan Pacifique. Donc, alors, les téléspectateurs avaient dit, il est nul, etc., gros naze. Le médiateur, il ne transmet pas ses propos comme ça. Et il dit, tu as fait un lapsus. Ça passe. Et là, je me suis fait engueuler comme des poissons pourris en disant, encore une fois plus, ils n'ont pas de carte de presse, moi j'ai une carte de presse qui se mêle de ce qu'ils les regardent. C'est quand même pas ce qu'ils les regardent, le produit qu'on leur propose. Pendant que j'étais médiateur, bon, il y a toujours des petites frictions et tout. Alors dernier point avant de dire ça, il faut aussi que le médiateur ait une plage d'expression. C'est quelque chose de très important. Un médiateur qui ne peut pas s'exprimer, il ne sert à rien, soyons clairs. Il sert à transmettre le courrier à la direction ou au journalisme, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait une chronique, c'est le cas dans Le Monde, c'est le cas à Radio France, France Inter et France Info, c'est le cas à France 3, à l'ANR, Ce n'est pas le cas à France 2. C'était le cas quand j'y étais. Après, ils ont, la direction a tout fait pour supprimer l'émission. Bon, il se trouve que c'est une question de rapport de force. Donc le rapport de force était favorable à la direction pour supprimer l'émission. Directeur de la rue, enfin avec l'appui, le soutien de la présidence. Hein, c'est une responsabilité un peu collective. Ils ne sont pas tous coupables, mais peut-être un peu tous responsables. Donc, c'est important d'avoir ces chroniques. Pendant que j'étais médiateur, j'ai eu trois cas difficiles. L'affaire Juppé, on avait annoncé que Juppé, qui était sur TF1, annonçait qu'il démissionnait de tous ses mandats, alors que ce n'était pas exactement ça. L'affaire Allègre-Baudis, on avait des témoignages prouvant que Baudis violait, participait à des soirées sadomasochistes, etc. Et puis le référendum sur la Constitution européenne, où on faisait quand même assez ouvertement la campagne du oui. Il est de coutume de dire c'est la rupture entre les élites et le public. Je suis pas sûr que les journalistes fassent partie des élites. Enfin bon, si on le dit, ça doit être un petit peu vrai, mais bon, c'est autre chose. On était moins pire à France 2 que France 3, qui a organisé quelqu'un qui avait un passé avant sur France 2, qui a eu ensuite un avenir qui est devenu un passé sur France 24, qui avait organisé un débat sur le oui ou le non référendum avec deux partisans du oui. C'est vrai que c'est un débat tout à fait ouvert. Donc effectivement, ça pose des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait le médiateur? Il répond aux téléspectateurs. Il répond aux téléspectateurs. Je donne jamais de nom, mais des indices. Il faut bien que chacun travaille quand même un petit peu. Donc, que fait le médiateur? Il répond aux téléspectateurs en essayant d'analyser aussi la pertinence du courrier. Alors, une seule lettre, enfin un seul mail, parce qu'au début, moi, quand j'étais médiateur, il y avait des lettres. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, ce sont des mails, évidemment. Donc, un seul mail peut être très pertinent en disant « J'étais témoin de tournage de tel reportage ou de telle situation, de telle actualité. Ce que vous dites, c'est faux. Bon, » Il faut vérifier, mais parfois aussi, il y a beaucoup de lobbies qui interviennent. Ça peut être des syndicaux, enfin des syndicats, ça peut être des associations laïques, catholiques, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, des écolos, enfin n'importe quoi. Bon, il faut savoir donc. Hein, ça peut être des sectes aussi, oui. J'ai même, parce que parfois, d'une part, les mails, c'est bien parce qu'il y a des consignes d'envoyer un mail. Mais ils envoient tous le même mail. Alors, quand on reçoit 300 mails identiques, on se dit que ce n'est pas un geste spontané. De même que quand on reçoit un tract que fait distribuer une municipalité sur le marché pour protester contre une émission d'envoyé spécial, je crois que c'était à Montreuil. Donc, on sait que c'est la municipalité qui n'était pas contente, à tort ou à raison, d'un reportage envoyé spécial qui distribuait un tract sur les marchés en disant « Écrivez au médiateur de France 2 pour... » Et puis, c'est vrai aussi pour des cas plus particuliers, notamment une de mes... ce qui m'a fait souffrir pendant 5 ans, ça a été le conflit du Proche-Orient, où on se faisait accuser, heureusement, à peu près égal, d'être pro-palestinien ou d'être pro-israélien, c'est-à-dire en fait pro-sioniste. Et heureusement, on était plutôt pro-équilibré. On avait fait très attention. Et il y a déjà des désaccords. Je ne parlerai plus jamais d'Israël. Ce n'est pas possible. on essayait de faire attention, malgré parfois des dérapages. Mais savoir utiliser les mots justes, ce qui n'est pas simple, parce que dès qu'on dit on veut utiliser un mot juste, il y a tout de suite conflit. Est-ce qu'on doit dire clôture autour des territoires palestiniens ou mur? Est-ce qu'on doit dire colonie ou implantation? Est-ce que la capitale de Israël, c'est Jérusalem ou Tel Aviv? Chaque mot est un mot qui est porteur d'émotion, de conviction. Et c'est le rôle du médiateur d'essayer d'inciter les journalistes à dire des choses le plus précises possible. De pas faire de... Alors, je parle pour le service public. Si on est un journal engagé, c'est tout à fait normal de s'engager. On peut être engagé et être des journalistes sérieux. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Condition que les commentaires ne travestissent pas les faits, bien évidemment. petit exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Si je suis trop long, je dépasse mon temps, il faut me le dire, parce que moi, je suis bavard. c'était pendant l'élection, la première élection de Bush, la fameuse élection, on comptait, on recomptait, etc., en Floride. Et on avait un gars qui est très bien, qui était envoyé spécial en Floride. Et donc, il était en direct dans le journal. Et le présentateur lui dit, alors, où est-ce qu'on en est dans le décompte des voix? Et il a commencé, malheureusement, c'est toujours Bush qui est en tête. Et il a été rapatrié par le premier avion. ce qui était bien. Il ne l'a pas fait exprès, hein, c'est du lapsus. Hein, mais c'est important, on n'a pas à faire ce type de commentaire. Je crois que c'était quand Sarkozy a été élu, je crois. Il y a une journaliste, c'était France 3, qui s'est mise à pleurer à l'antenne. Bon, soit on est journaliste, soit on n'est pas journaliste. Je veux dire, quels que soient nos propres, on a le droit d'avoir des opinions, on est des citoyens. Mais c'est très important. Et le médiateur, il aide à conserver cet état d'esprit. La direction aussi. Enfin, la direction a beaucoup de choses à faire, y compris de survivre à différents changements politiques. Donc, le médiateur, lui, il fait que ça. Donc, c'est son métier. Le médiateur, il n'y a pas de système de sanctions. Hein, il informe, mais il fait des recommandations. Il discute avec des gens. Il peut faire des recommandations personnelles. Non, là, tu as fait une connerie. C'est des choses qui arrivent. Moi aussi, j'ai fait des conneries quand j'étais journaliste à France 2. Soit tu expliques au téléspectateur, tu lui envoies une lettre, tu dis que tu reconnais ton erreur, ou si tu ne la reconnais pas, tu lui expliques aussi que tu estimes que tu n'as pas fait d'erreur, tu lui donnes tes arguments, mais il n'y a jamais de sanction. On ne va pas cafeter à la direction, un tel a fait ci, a fait ça, hein, jamais. Mais quand on en parle à l'antenne, forcément, à un moment donné, même si on le fait toujours d'une manière qui est naturellement, qui est assez agréable. Les thèmes qui revenaient le plus souvent, alors il y a la violence de l'image, notamment pendant le journal télévisé. Alors en France, on est un pays très particulier parce qu'on regarde les journaux télévisés en mangeant, éventuellement au petit déjeuner avec Télématin, au déjeuner avec France 3 et France 2. Vous ne regardez pas TF1, ça ne sert à rien, pas d'informations sur TF1 le midi. Comment ?
C'est le plus regardé.
Oui, donc il faut voir les gens. Finalement, le public, il a tort. Et le soir à 20h, on regarde aussi en mangeant. Donc, forcément, l'actualité, il y a des images qui ne sont pas toujours drôles, etc. Donc, c'est un vrai problème. Et là, il faut expliquer aux téléspectateurs que le journal télévisé, ça ne se regarde pas forcément avec des enfants. C'est pas Walt Disney. Hein, et donc, ou s'ils regardent, il faut qu'ils expliquent aux enfants. Et le rôle du médiateur, c'était de dire aux présentateurs, soyez responsables, prévenez que la séquence peut choquer, que c'est violent, qu'il y a du sexe. Le présentateur me répondait, oui, mais si on dit ça, les gens vont plus regarder. Je leur disais, mon œil, vous ne vous souvenez pas de la pièce de Voltaire, cacher ce sein que je ne saurais voir, qui est toujours joué avec la main ouverte. Hein, si on leur dit, attention, regardez pas, il y a du sexe ou du sang, la majorité, ils accourent vite fait devant leur poste pour regarder. C'est pas l'heure. Les autres thèmes qui étaient abordés. Bon, c'est aussi la hiérarchie de l'information, avec de plus en plus la place impressionnante des faits divers. Ça a commencé en 2002. Ça s'est poursuivi assez sérieusement jusqu'à mon départ. J'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, je ne pense pas à vrai dire, mais que ça s'est aggravé depuis que je ne suis plus médiateur. Mais sincèrement, je ne pense pas que c'est le fait que je sois parti. Mais c'est un vrai problème. Heureusement qu'il y a des périodes politiques, notamment pour France 2, qui nous permettent d'être leader et de faire des journaux intelligents et intéressants. Mais c'est dramatique. Quand j'étais plus jeune, que je rentrais, j'ai fait peu de 20 heures, moi. Je faisais plutôt le matin, le midi, ou des reportages dans les magazines. Quand je rentrais à la maison, je rentrais vers 8 heures, etc. Et je voulais regarder le journal. Bon, je ne voulais pas rester à la rédaction le regarder, je préférais le regarder à la maison. Donc j'arrivais, ma femme me disait, oui, mais enfin, faut manger, ceci, cela, tu regarderas après. Mais je disais, je ne peux pas regarder après, parce que l'essentiel du journal, c'est au début du journal. Donc il faut que je vois le début. J'ai plus de problème maintenant. Je peux commencer à 8h20 à regarder le journal. C'est là que commencent les informations.
Surtout s'il a neigé.
Alors là, je peux commencer carrément à 20h30 à regarder le journal pour commencer à voir ce qui se passe dans le monde, avec cette formule que j'adore dans les grands médias. C'est... C'est la trêve, Pascal, c'est la trêve hivernale. Il ne se passe rien aujourd'hui. L'actualité est creuse. Donc le reste du monde n'existe pas. Les creuses en France, mais enfin, il y a le reste du monde qui existe. Il y a les horaires de géographie de nom. Ça, c'est fréquent. Alors, c'est bizarre parce que, d'une part, c'est des problèmes d'organisation de la rédaction. Sur France 2, c'était très... Avec Bernard Pivot, on avait cherché à trouver un système. Puis c'était trop compliqué. Bon, sur TF1, c'est plus facile parce que les patrons dirigent et tout. Nous, c'est très éparpillé. Par exemple, quand vous donnez le nom de quelqu'un pour un reportage, le reporter, il va téléphoner à son service. La secrétaire va prendre les noms des personnes. Elle va le transmettre à l'assistant du journal de 20h, qui lui va le transmettre à l'assistant du réalisateur pour la régie. Donc, hein, et à tous les coups, le nom s'est modifié avec quatre passages. Donc ça, c'est des problèmes d'organisation. Et puis, il y a aussi un problème très franco-français, mais c'est peut-être vrai dans les autres pays, c'est qu'on considère que ce qui se passe ailleurs, tout ça, c'est pas bien important, la rigueur. Il y a quelques années, il y avait des affiches qui étaient sur... ça a été mis sur les murs, c'était une photocopie d'un papier du Canard enchaîné. C'était la capture d'un écran de CNN qui avait fait une carte de l'Europe. Alors, ils avaient mis la Suisse à la place de la Belgique, l'Autriche à la place de l'Allemagne. Enfin, c'était un capharnaüm total. Et le Canard enchaîné est donc repris sur les couloirs de France 2. C'était connard d'Américain, inculte, impérialiste, il n'y a que qui compte. Mais quand nous, on fait constamment ce type d'erreur, on l'a fait, on a mis, quand je dis un jour, ce n'est pas un jour, deux jours. Il a fallu que j'intervienne parce que, théoriquement, le médiateur, il n'intervient pas avant, il intervient après, mais je pensais qu'ils allaient rectifier d'eux-mêmes. Bon, carte du Maroc, on avait mis Rabat à la place de Marrakech et vice-versa, ce qui était intéressant parce que du coup, Marrakech se trouvait au bord de la mer, ce qui était quand même un plus. Et puis Rabat pouvait bénéficier de l'aura de Marrakech. Mais non, c'est pas grave, c'est un détail. Mais quand c'est les Américains qui font ça sur nous, on se retrouve que ce n'est pas un détail, que c'est vraiment scandaleux. Autre sujet qui est revenu souvent, les faux directs. Alors là, j'ai obtenu satisfaction. On trouvait que ça faisait mieux de dire que quelqu'un était en direct quand il n'était pas en direct, qu'il avait été enregistré dans le décor du journal avec le présentateur dans l'après-midi. Ce qui était un peu embêtant, c'est parfois on trouvait le même invité sur TF1 et sur France 2. Alors parfois, il était en direct sur France 2 et en faux direct sur TF1. Parfois, c'était l'inverse. Donc les gens, ils ne sont pas dupes, ils s'en apercevaient et donc ils protestaient. Et la meilleure, ça a été un jour, c'était Johnny Hallyday qui avait participé au rallye du Dakar. Et donc il était interviewé sur France 3 au 19-20 sur la plage avec le coucher de soleil et tout. Et le présentateur de France 3, vraiment, ils font n'importe quoi à France 3, avait dit que ce n'était pas en direct. Ouais. Nous, ensuite, on l'avait aux 20h sur la même plage, avec la même mer, avec le même soleil, qui gentiment n'avait pas bougé entre 19h et 20h. Il était resté au même endroit. Et nous, on a dit que c'était du direct. Donc, ça faisait des ordres. Alors, j'ai réussi à obtenir, non pas qu'on dise que c'était enregistré, parce qu'il paraît que ça, c'est absolument impossible à faire, mais on dit simplement, après, c'était enregistré. Donc, on le lance comme si c'était du direct. On dit pas que c'est du direct, mais enfin, on crée l'illusion que ça peut être du direct, et puis après, on dit que c'était pas du direct. Puis alors, dernier... C'est la cerise sur le gâteau, c'est les femmes d'eux. J'ai eu à traiter notamment Schoenberg et Borloo, mais c'est quelque chose que j'ai connu depuis longtemps, avant d'être médiateur. Alors, quand j'étais médiateur, un jour, il y a un médiateur américain qui m'envoie un mail en disant j'ai donné ton adresse, si tu veux bien, à des universitaires américains qui font une étude sur la télévision française. Alors, ils disent, mais je pense que c'est faux, il paraît que vous avez des présentatrices qui sont des épouses de ministres ou d'hommes politiques de renom. Alors, je suis désolé de te dire que oui, et c'est pas de ça date depuis assez longtemps, épouse, famille, etc. Donc, j'ai connu, du temps de Giscard, la fille de Giscard a eu une émission, que tu es culinaire ou je sais pas trop quoi, c'était pas très politique. La femme de Fabius a eu... beaucoup d'émissions de production. Christine Ockrent, multipliée par deux, parce qu'elle est femme de ministre de gauche, femme de ministre de droite. Donc, comme ça, donc, elle a couvert tous les chiquiers politiques. C'est lui un gros avantage. La femme de Kijman, qui a eu une promotion aussi, à un moment donné, sur TF1. Puis maintenant, il y a Puvart, Hervé Lair, et même Estelle Denis, parce que quand il y a eu l'histoire Schoenberg, j'avais fait une lettre à la rédaction et puis qui était la copie de ce que j'avais répondu aux téléspectateurs, très prudent, j'étais médiateur, en disant que oui, effectivement, c'était compliqué, mais qu'on ne peut pas empêcher les gens de tomber amoureux. Hein. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Bon, ce qui était important, et que je ne doutais pas que la personne en question, Madame Borloo, appliquerait ces principes, c'est que naturellement, on n'interviewait pas son conjoint, et que on faisait très attention d'être neutre, puisqu'on était service public, on a un devoir de pluralisme et de respecter tout le monde. Et donc, j'avais expliqué tout ça. Et puis, quelques années après, 2-3 ans après, j'ai découvert que ça ne choquait personne. Qu'Estelle Denis, c'est sur M6, pouvait interviewer son mari, enfin, suivre le sport, suivre le foot, interviewer son mari. Donc, c'est vraiment des questions qui étaient vacharnes, non ? Je crois, et puis, elle pouvait aussi faire des publicités sur le sport, aussi avec son mari. Mais apparemment, ça semble... Enfin, ça n'a pas suscité le tollé que ça aurait pu susciter il y a quelques années, quand par exemple Audrey Pulvar, que je ne connais pas, est à l'image pendant les primaires et est contente du résultat de son mari. Bon, que Valérie Trier-Wellers soit contente de l'élection de son mari, enfin de son compagnon, ça c'est pas choquant.
Comment ?
Il y a eu du buzz. Non, enfin, disons qu'elle soit contente quand son mari devient président de la République, ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais c'est quand, en tant que journaliste, alors, bon, entre nous, parce que comme ce n'est pas enregistré.
Beaucoup de lecteurs qui ont
Oui, entre nous, comme ce n'est pas enregistré.
Tous les derniers.
Oui, là, on parle des unions publiques, normales. Je peux dire normales maintenant, c'est autorisé. Je ne parle pas des unions anormales. Vous mettez ce que vous voulez sous le terme d'union anormale. Pour terminer, parce que je pense qu'il est temps que je termine, j'ai fait 1h15, c'est ça. Est-ce que le médiateur sert vraiment à quelque chose? Non si c'est un placard doré, non si c'est une pré-retraite, non si le but est de communiquer pour la chaîne, ce n'est pas le rôle du médiateur, ou de se faire bien voir du président, pouvoir le tutoyer parce qu'on fait partie des grands de la maison. Oui, c'est utile si on considère qu'aucun sujet n'est tabou. Si on prend ses responsabilités, si on accepte de se fâcher ou de se faire mal voir par un certain nombre de personnes, donc si on n'a pas un plan de carrière derrière, hein, parce que sinon ça ne marche pas du tout, si on est prêt à affronter les stars, si on n'est pas impressionné, et si finalement l'essentiel c'est de faire un travail qui est sérieux, qui permet d'améliorer la qualité du travail de journaliste, donc finalement si on est dans une optique de journalisme. Et je disais, et je dirais pour terminer, c'est pour t'aider... et tout, c'est toujours bien. C'est donc le médiateur, ça peut être bien, ça peut être mieux, ça pourrait être pire, mais c'est pas suffisant pour faire respecter la déontologie des journalistes. Il y a d'autres structures qui peuvent exister, d'autres idées, dont Yves Agnès n'est pas forcément le père, mais peut être le porte-parole.
Donc la transition est faite, et c'est vrai qu'on souvent les présentateurs ont l'habitude de dire sans transition, mais cette fois il y a une transition. Alors ce que je voulais juste apporter, donc c'est vrai que c'est très difficile d'arrêter un journaliste qui est en train de parler, surtout de l'audiovisuel, parce que la plupart du temps il parle, mais on lui redonnera la parole tout à l'heure. Parce que juste avant l'intervention d'Yves Agnès, je voulais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas. Dans le métier de journaliste, il y a une charte. Tout journaliste qui obtient sa carte de presse doit, entre guillemets, obéir à une charte qui a près d'un siècle et qui a été réécrite depuis l'évolution de l'histoire. Et dans cette charte, il est bien précisé tout ce que le journaliste ne doit pas faire et ce qu'il doit respecter. Donc c'est vrai qu'il y a, on est comme la calomnie, on est responsable de ses écrits. Tout ce qu'on dit, évidemment, on le dit, on en est responsable. Donc, il y a une charte qui existe, qui cadre le métier de journaliste. Alors, c'est vrai que si on parle d'instance de médiation, un conseil de presse, c'est peut-être aussi que cette charte n'est pas toujours respectée. Donc, c'est vrai qu'on a le médiateur donc, entre le public et le journaliste. Et après, on peut donc avoir ce conseil de presse que Yves Agnès donc va vous expliquer un peu comment il voit ça. C'est vrai que pour le public, ça peut être pris comme un ordre ou un conseil de presse pour la déontologie, quoi. par rapport à la déontologie. Donc, je laisse la parole à Ivaniès qui va aborder ce thème donc de préfiguration d'un conseil de presse, donc une instance de médiation entre le public.
Je vais parler aussi un peu des médiateurs pour commencer. Excuse-moi de donner une précision quand même. C'est quand tu dis tout journaliste doit respecter une charte, non. La charte syndicale de 1918, revue en 2011, n'est pas obligatoire pour personne.
C'est et tout en plus, bon journaliste.
C'est tout journaliste digne de ce nom. C'est entièrement moral. Moi, j'ai été syndicaliste SNJ comme mon confrère quand j'étais au Monde et à Ouest-France. Bon, d'accord, mais je veux dire, les patrons ne reconnaissent aucune charte déontologique, fût-ce celle-ci ou d'autres, puisqu'il y a, disons, actuellement 5 textes qui peuvent être considérés comme des référents en France. Donc, en fait, c'est bien parce qu'il n'y a pas de reconnaissance d'un texte, précisément, qui fait obligation à chaque journaliste d'avoir et à chaque patron de respecter les règles déontologiques qu'il y a des problèmes. Et c'est pour ça que le SNJ de son côté, par exemple, au niveau de la charte, la PCP du sien et d'autres, et d'ailleurs, le SNJ n'est pas loin de ces positions-là, la CFDT encore plus près, mais d'autres aussi, nous ne sommes pas seuls dans ce combat-là, je vais en parler plus précisément, mais c'est bien précisément parce qu'il y a beaucoup de problèmes en France du fait de la non-organisation sur le plan de la profession. Notre profession n'est pas organisée pour le respect de son public. Elle n'a pas de charte contraignante, elle n'a pas d'instance, elle n'a rien. Elle a juste une commission de la carte, c'est tout. 1935, il n'y a rien eu depuis. Alors, je voudrais partir de l'expérience des médiateurs, effectivement, dire, comme l'a fait Jean-Claude, c'est dire que c'est très encourageant, les médiateurs, et que, bien sûr, il faut continuer dans cette voie partout où on le peut. Bon, mais il y a quelques mais. Alors, deux ou trois petits mais. D'abord, ça ne peut concerner que les grands médias. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'entreprises de presse, par exemple des radios. Les radios, il y a plusieurs centaines de radios en France, notamment il y a 300 ou 400 radios locales, etc. Bon. Il y a des milliers de titres de presse professionnels, etc. Il y a la plupart des entreprises sont des entreprises, bien évidemment, de moins de 10 personnes et souvent de moins de 5 personnes. Par conséquent, on ne va pas mettre un médiateur, etc. Donc, ça ne peut marcher que dans les grandes chaînes de télévision publique et privée, dans les grands journaux, dans les grands hebdos, dans les chaînes de radio, etc. Deuxièmement, ce que je voulais dire pour aller compléter ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les médiateurs, dans leur ensemble, ont beaucoup de difficultés. Il se trouve que après le départ de Jean-Claude de la médiation de France 2, je me suis intéressé à ce sujet. J'ai fait une enquête assez complète sur la situation à l'époque. C'était en fin 2005, début 2006. Et à l'époque, il n'y avait même pas 7 ou 8 médiateurs, quelque chose comme ça. Et avec l'ancien médiateur de Radio France, on a décidé de créer un club des médiateurs. Et puis, il y avait à l'époque plus de... il y avait une certaine appétence pour ce type de fonction. La presse n'avait pas toutes les difficultés qu'elle a connues ensuite. Et donc, il s'en est créé jusqu'à 15 postes de médiateurs. Mais avec toutes les mêmes difficultés que Jean-Claude a décrites, que ce soit de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, c'est la difficulté avec les hiérarchies, la difficulté avec les journalistes qui n'aiment pas être critiqués, la difficulté... Alors, il faut savoir que si la direction n'est pas d'accord, il n'y a pas de médiateur, bien entendu. Dans tous les cas, le seul cas où l'initiative n'est pas venue de la direction, le seul cas, c'est TF1, récemment, il y a 3 ou 4 ans, Jean-Claude Pias,
oui.
Hein, où c'est un journaliste, un reporter, qui a dit, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Il a proposé ça à cette direction. Il a eu le feu vert. Il l'a fait d'abord à mi-temps. Il l'a fait à plein temps. Bon, maintenant, il est à nouveau dans la hiérarchie, il est chef adjoint de service, quoi. Et c'est une fille qui l'a remplacée et qui maintenant est à plein temps et le poste a été pérennisé plus ou moins à TF1. Mais dans tous les autres cas, c'est la direction qui a dit tiens, il faut faire ça. Sur quel motif ? Retrouver de la crédibilité vis-à-vis de notre public, partout. C'est même écrit dans la définition du poste de médiateur de Radio France Internationale, lorsqu'il a été créé. Donc beaucoup de difficultés. Et lorsqu'est arrivé ces problèmes économiques des médias, eh bien, on a eu jusqu'à 15 postes de médiateurs en France, qui venaient tous à ce club des médiateurs qu'on avait fondé avec Pépin en 2006. Et du coup, il y en a 5 ou 6 qui ont déjà disparu. Il y en a eu à L'Express, par exemple, il y en a eu à Midi Libre, il y en a eu au Parisien aujourd'hui en France, il y en a eu un à l'Est Républicain. Celui de Paris-Normandie, il a duré un mois. Bon, mais on va le mettre. Bon, et tous ces postes ont disparu. Hein, tous ces postes, bon, variable d'ajustement économique. Donc, voilà, les temps sont durs, c'est cher à cause de médiateurs. Voilà. Et puis, le dernier petit point, moi, qui me. Alors, y a eu des régressions, je dirais, dans la fonction même. La plus voyante étant la disparition de l'émission de France 2, qui était la chronique phare de médiation de toute la presse écrite et audiovisuelle en France, quoi, qui était quelque chose de dynamique, surtout quand Didier et Jean-Claude y étaient. C'était un peu plus calme après, et malgré que ce soit plus calme après, ils l'ont quand même supprimé. Donc le public n'a plus ce truc, et le médiateur n'a plus ce moyen. Bon. Mais ça a été un petit peu pareil dans d'autres, et notamment, il y a un médiateur, par exemple, à Sud-Ouest, l'ancien médiateur de Sud-Ouest, il a dû quitter son poste et même l'entreprise, parce qu'il avait été en conflit avec la direction à cause de sa chronique hebdomadaire. Alors, le poste existe toujours, c'est un autre médiateur qui l'emploie, mais enfin, c'est un poste difficile. Hein. Et ce que j'observe, moi, de ma lucarne dans ce club des médiateurs, c'est que de plus en plus, je les sens tous comme plus communicants de l'entreprise, enfin, avocats de l'entreprise, si vous voulez, qu'avocats du public à l'égard de la rédaction. Avocat de la rédaction plutôt. Et si vous lisez la chronique du Monde, par exemple, par rapport à ce qu'a fait Solé ou même Véronique Maurus, mais surtout encore Solé avant elle, qui effectivement disait des choses noires sur blanc, on a fait des erreurs, etc., et disant non, ça se produira pas. Là, Pascal Galinier est beaucoup plus. Il fait une sorte de melting pot de courrier de lecteur sur un thème. Quoi. Bon, c'est pas très revigorant. Voilà. Alors, en fait, partons de ce cas de la médiation et de ce que j'ai dit d'abord sur les entreprises qui pouvaient se payer un médiateur, pour dire que régler les problèmes au plan local ne suffit pas. Ne suffit pas pour instaurer dans la profession, dans les médias, une information davantage de qualité qui doit avoir davantage une information de qualité pour deux raisons majeures. D'abord, premièrement, nous ne sommes plus consommateurs de médias uniques. Autrefois, il y a 30-40 ans, bon, on lisait un journal, 50 ans. Puis après, on lisait un journal, puis on écoutait la radio d'abord. Mais bon, on écoutait, il n'y a pas beaucoup de postes. Hein. Puis après, il y a eu la télé. Alors, on a été avec son journal et son journal télévisé. Mais maintenant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est tous les Français sont consommateurs multimédia, consommateurs d'informations multimédia. Et donc, on a vu dans ce club de médiateurs, par exemple, je crois que c'était le médiateur de Sud-Ouest, il y a déjà assez longtemps de ça, plusieurs années, qui disait, bon, je suis interrogé, je reçois une lettre courroucée d'un lecteur qui me dit oh, vous avez fait telle connerie, etc. Je regarde le traitement dans le journal de cette affaire, on était nickel. Qu'est-ce qui s'était passé et ils ont ce problème en permanence maintenant. C'est que le lecteur, en l'occurrence, ben, il sait plus où il a entendu, où il a lu, où il a écouté, où il a regardé l'info. Internet son journal, machin, etc. Bon. Donc d'abord, on est consultateur multimédia. Deuxièmement, il y a un système médiatique qui fonctionne de plus en plus, qui existe, qui a été théorisé déjà par des universitaires il y a plus de 40 ans, mais qui fonctionne de plus en plus en circuit fermé, Bourdieu parlait de circulation circulaire de l'information, mais disons, les médias se copient entre eux, au lieu de se différencier et d'avoir des lecteurs très différents ou des publics très différenciés, ils se copient tous les uns les autres et ils font tous les mêmes conneries, d'une certaine façon. Ils font tous les mêmes hiérarchies de l'info, etc. Donc, ils font tous du fait divers, tous de la météo, et tout ça. Bon. Et parce que ce système médiatique est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus prégnant que chaque média lui-même, quelle que soit sa nature. Donc, à problème national, information insuffisante en qualité, réponse nationale. Et problème national, il y a, puisque il n'y a pas que les médiateurs qui reçoivent des critiques, mais les Français sont de plus en plus critiques vis-à-vis de leurs médias. Vous savez qu'il y a tous les ans, au mois de janvier, un sondage diffusé, fait par Lacroix et TNS Sofresse, bon, qui dit en gros les choses suivantes, c'était pareil depuis 15 ans, c'est il y a la moitié des Français qui pensent que ce qui est écrit dans le média ou publié ou diffusé dans le média n'est pas conforme à la réalité. Et deuxièmement, il y a plus de 60% des Français, donc près des deux tiers, qui pensent que les journalistes ne sont pas indépendants des pouvoirs politiques et ne sont pas indépendants des pouvoirs économiques. Bon, avec ça, débrouillez-vous. Alors, si on n'est pas dans la merde, je ne sais pas où on est. Bon. Donc, il faut faire quelque chose et c'est un problème national. Alors, ce problème est ancien. Ce qu'il faut pour résoudre ce type de problème, qualité de l'information, c'est-à-dire une information bon, sans doute mieux hiérarchisée, mais surtout qui respecte davantage les normes déontologiques, c'est un dispositif déontologique national qui repose sur, en général sur, dans tous les pays sur deux choses. Un code reconnu par toute une profession, ce qui n'est pas le cas en France. Les employeurs et les syndicats de journalistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur leur texte de référence. Les employeurs non plus. Donc, ensemble, personne n'est d'accord. Donc, il n'y a pas de texte de référence réel. Et deuxièmement, il n'y a pas d'instance puisque la profession l'a toujours refusé. Et cela, alors que dans une centaine de pays dans le monde, une vingtaine dans l'Union européenne, il existe, sous le nom général de conseil de presse, des instances déontologiques du journalisme, de l'information, dont la première a été créée en Suède en 1916, donc il y a presque un siècle. Bon. Mais nous, la question s'est posée déjà en 1898. En 1898, la profession commence tout juste à s'organiser un petit peu. Il se crée le comité général des associations de journalistes. À l'époque, il y a des associations de journalistes spécialisées, soit locales, soit géographiques, je veux dire, soit par spécialité, etc. Bon. Ces associations ont en général des patrons et des journalistes à l'intérieur comme membres. Et donc, on crée un comité général. Et la profession faisait déjà énormément de conneries, notamment corruption et chantage à la fin du 19e siècle. D'énormes affaires. Donc, il pense créer une cour d'honneur, un tribunal d'honneur, enfin, c'était le terme employé à l'époque. Et on refuse. Première occasion perdue. En 1935, est votée par le Parlement à l'unanimité la loi sur le statut des journalistes. Après 10 ans de négociations infructueuses avec les patrons, entre patrons et le SNJ, du coup, les syndicalistes de l'époque disent on va aller aux politiques, ils font voter la loi. Sauf que, dans leur esprit aussi, la loi comprenait, et notamment dans l'esprit de l'initiateur de la loi de 35, qui est Georges Bourdon, l'ancien patron du syndicat des journalistes, dans leur esprit, il y avait ce côté déontologiste, il y avait ce côté instance, et la commission de la carte aurait dû jouer ce rôle. Sauf que ça ne l'a pas été le cas, parce que, bon... À la fois ça c'est mon explication, mais pour être peut-être approfondi, corrigé, à la fois le rapporteur de la loi Émile Brachard et celui qui avait déposé Henri Guernu étaient des patrons de presse. et que les patrons de presse n'ont jamais été favorables à ce type d'instance. Donc, voilà. Donc, deuxième occasion perdue, 1937. À la Libération, on dit de la collaboration et de l'entre-deux-guerres, faisons table rase et reconstruisons une société morale avec des journaux qui soient honorables et non pas qui se déshonorent comme ils l'ont fait par le passé, que ce soit entre les deux guerres ou pendant l'occupation allemande, et avec les Berbeuf Mairie, les Camus, etc. Il y a une génération morale, y compris aux têtes parmi tous les patrons de presse, etc. La Fédération nationale de la presse française, qui renaît de ses cendres, adopte un projet de constitution d'un tribunal d'honneur. Il ne verra jamais le jour. Troisième grande opinion perdue, occasion perdue. Donc, ensuite, Jean-Claude l'a dit depuis le début, dans la fin des années 80, les problèmes ont commencé à devenir très voyants. Pendant une bonne trentaine d'années, 30-35 ans, on vivait sur les acquis de la Libération. Il y avait dans l'état d'esprit des journalistes une certaine morale, on ne faisait pas n'importe quoi. Puis tout ça s'est délité. La société elle-même, les règles, les bases morales de la société se sont complètement éclatées. Hein. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous êtes aussi savant que moi sur la question. Et donc, ça a commencé à être très très voyant et il a rappelé un certain nombre de. Enfin, c'est plutôt toi qui as rappelé un certain nombre d'affaires avec le PowerPoint. Donc. Et à ce moment-là, il y a eu des tas d'avis, de rapports publics, d'avis de la Commission consultative des droits de l'homme, d'avis du Conseil économique et social, 1999, droits de l'homme, 1995. Il y a eu des... Bon, etc., etc., etc. Des rapports, et puis tout ça n'a jamais rien donné. Alors, qu'est-ce qui fait que je crois que fondamentalement, il y a deux gros problèmes. Qui sont liés tous les deux d'une certaine façon à notre profession. Enfin, il y a au moins deux gros problèmes dans la profession. La première, c'est que, contrairement à d'autres pays, en France, on est une profession qui sommes issus de la littérature et de la politique. C'est ces deux bases-là qui ont fait la profession de journaliste, et non pas le reportage, l'étude des cas, des faits, etc., qui a donné beaucoup plus le journalisme anglo-saxon. Et par conséquent, vous voyez, la notion de liberté est une notion totalement prédominante dans les esprits, mais prédominante au point qu'on ne comprend pas, on n'a pas assimilé dans cette profession le fait que quand on veut être totalement libre vis-à-vis d'un public, il faut quand même être responsable vis-à-vis de ce public. Et que, je veux dire, il y a des limites qu'il faut soi-même se fixer. Qu'est-ce que donne... vous savez, il y a un philosophe catholique, enfin oui, un philosophe, Henri Lacordaire, du 19e siècle, qui disait « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » Ou Moroy, après 81, qui disait « Oui, la loi du renard libre dans le poulailler libre. » Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation. Et on voit bien, on l'a bien vu avec la crise financière, quand il n'y a pas de régulation, il y a la catastrophe. Donc, la liberté, toute la liberté, oui, mais avec un exercice de responsabilité. Le deuxième problème, c'est que depuis 1938, dans la profession, on considère, à l'initiative de ton syndicat, qui a été le mien, parce que c'est écrit dans la charte du syndicat, la fameuse, non pas dès 1918, dès 1938, seulement dans la deuxième version, et puis dans la troisième aussi, que le journaliste n'accepte que le jugement des pairs, comme les avocats, les médecins, enfin, les professions libérales, d'une certaine façon. Or, ce jugement des pairs est totalement dépassé, parce que, précisément, c'est un corporatisme que nous ne pouvons plus, que cette profession ne peut plus maintenir vis-à-vis de son public maintenant. Pourquoi ? Parce que ce public est arrivé à un degré de maturité à son égard, qu'on ne peut plus lui tenir les discours que nous lui avons tenus et que tu rappelais, ils nous emmerdent, ils ne sont pas journalistes, ils n'ont pas leur carte, etc., etc. C'est pas vrai, le public. Rappelez-vous, il y a certainement des enseignants dans cette salle, qu'en 1950, une classe d'âge de français, il y avait 5% de niveau bac. 5% en 1950. Depuis une dizaine d'années, il y a 63% au niveau bac dans une classe d'âge. Donc, on ne va pas dire que les gens sont des crétins. Hein? Donc, les gens... Moi, j'ai entendu un journaliste, je me rappelle, à mes tout débuts dans la profession, un journaliste de province, du journal concurrent, qui m'a dit un jour, de toute façon, c'est bien assez bon pour mes lecteurs. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Alors, maintenant, qu'est-ce que veut le public ? Non seulement il veut une information de qualité et il a les moyens de la contrôler, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Quand vous vous trompez, que je connais la question, c'est tout votre média qui en prend plein la gueule. Bon. Et non seulement, mais maintenant, il veut participer. Et il participe. Et il participe de plus en plus à la fabrication de l'information grâce à Internet, qui est une véritable révolution. Et qu'à l'heure d'Internet, à l'heure de la réaction en temps réel, enfin immédiate, aux articles, aux émissions, etc., à l'heure où on fait participer les internautes par des apports d'informations, de vidéos, de photos, etc., à la réalisation même d'informations, il est, à mon avis, totalement dépassé de parler encore de jugement des pairs. S'il doit y avoir un contrôle, il doit être avec le public, c'est-à-dire un contrôle, ce qu'on appelle la co-régulation. Il y a la régulation, ça c'est l'État, c'est le CSA. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça c'est la régulation. C'est l'État qui nomme des gens, enfin c'est les présidents des trois chambres, les socialistes ont changé, mais enfin ça sera... ça va être un autre système, mais c'est toujours l'État, dans leur idée, parce qu'on leur a posé la question, justement, avant le... nous, la PCP, avant l'élection, en disant, bon, si vous réformez le CSA, qu'est-ce que vous pensez de mettre du public dedans ? Et la réponse de Valérie Aurélie Filippetti était très claire, donc nouveau ministre de la Culture et de la Communication. Il faut nommer des gens compétents, et comme maintenant, ça, les gens seront forcément indépendants, puisqu'ils seront nommés par l'opposition et la majorité dans les chambres. Dans les deux chambres. Donc, à la fois les deux. Donc, ils seront plus indépendants que maintenant. Ils sont nommés par pratiquement une seule tendance, quoi. Alors, voilà. Alors, donc, on a parlé à propos des médiateurs du fait que les journalistes n'aiment pas la critique. C'est vrai, c'est un gros problème parce que les journalistes ont horreur de la critique. Si j'avais le temps, je vous raconterais une anecdote. Bon, je verrai si j'ai le temps. Mais j'ai peut-être pas le temps quand même. Mais ils se pensent comme intouchables. Les journalistes se pensent comme intouchables. Et une des critiques qu'on entend le plus de la part du public, c'est de dire « Mais vous n'êtes pas intouchables. Vous vous considérez comme intouchables. » Je l'ai entendu des tas de fois, quoi. Hein, bon. Pourquoi cet égo ? Je pense que c'est les origines de la profession, quoi. C'est très ancré dans les gènes. Alors, deux éléments me paraissent pour moi, au contraire, essentiels. D'une part, le droit du public à une information honnête, pluraliste, indépendante. Ce droit à une information honnête et pluraliste est reconnu par le Conseil constitutionnel comme un impératif à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il dépend d'une interprétation de la Constitution et des lois qui en découlent par le Conseil constitutionnel. Nous souhaiterions que ce soit encore plus clair que ça, et que ce soit inscrit dans la Constitution, le droit du citoyen à une information honnête, pluraliste, indépendante. Pourquoi ? Je ne fais pas de dessin, parce que sans information honnête, pluraliste, indépendante, pas de démocratie valable. Pas d'information valable, pas de démocratie valable. Mais je crois qu'il y a un deuxième élément qui est tout à fait aussi essentiel, c'est que le droit du public à émettre des critiques et à être entendu et respecté par les médias et par les journalistes devrait aussi gagner du terrain et donc être inscrit dans notre organisation. Et c'est pour cela que nous souhaitons que certes, s'il pouvait y avoir une charte déontologique commune à toute la profession, ça serait déjà un grand pas, mais que même si on n'a pas ça, on pourrait très bien créer une instance une instance d'éthique et de médiation nationale qui pourrait précisément être le signe tangible donné au public qu'on les entend, on entend le public, on entend ses critiques. C'est 50% de gens qui pensent qu'on écrit des conneries et c'est 60% qui disent qu'on n'est pas des vrais journalistes indépendants. Ben, on a entendu leur truc, on va prendre des mesures, on va faire ça et on va essayer de redresser la barre. Et pour sortir de cette crise de confiance énorme qui a peu d'équivalent à l'étranger, il faut le savoir, hein, il faut une instance nationale d'éthique et de médiation de l'information qui réunisse professionnels et publics. C'est ça notre projet. C'est pour ça que nous avons créé à quelques professionnels une association fin 2006 qui s'appelle l'Association de préfiguration d'un conseil de presse. Il y a un petit blog, si vous voulez, faites APCP, sur Google, vous trouverez des informations sur ce qu'on fait. Qui la compose aujourd'hui? Il y a une quarantaine de membres cotisants. Notre originalité, c'est qu'il y a des journalistes comme nous deux et des non-journalistes. Il y a un certain nombre de journalistes, de non-journalistes, des enseignants, il y a une chercheuse, il y a des gens qui sont rien du tout. Et il y a des gens qui sont escalité d'association dans notre association de préfiguration d'un conseil de presse, à savoir notamment, je suis fier de le dire dans une soirée organisée par l'Église de l'enseignement, Information et citoyenneté, qui s'est créée il y a 2 ou 3 ans maintenant, je crois, et qui est membre de la PCP, qui a 2 membres qui viennent régulièrement en réunion, qui est une association créée par l'Église de l'enseignement, les Franca et les CMA. Bon. Mais nous sommes très ouverts. Donc nous avons Information Citoyenneté, mais nous avons aussi la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Nous avons aussi d'autres associations plus modestes que ces énormes structures, etc. Bon. Donc nous avons des journalistes, des non-journalistes. Nous avons d'abord mis au point un projet, vous le trouvez en ligne, nous avons mis au point un projet de conseil de presse à la française, d'un sens d'éthique et de médiation. Ce projet est évolutif. La dernière fois qu'on l'a remanié, c'était en 2011. En 2012, on n'y a pas touché. On a notamment décortiqué la possibilité de rattachement d'une instance comme ça à la commission de la carte. Je dis ça parce que nos amis du SNJ, comme nos amis de la CFDT, seraient très, très intéressés par une telle solution. On a de nombreuses actions publiques. On participe aux assises du journalisme et de l'information tous les ans, bien sûr. On anime des débats là. On a participé aux états généraux de la presse écrite. On fait des sessions dans les écoles de formation journalisme. On va à l'étranger, etc. On a fait un colloque en 2009. On a de nombreux contacts individuels. Dans la profession, on en a eu beaucoup, on en a toujours. On en a eu beaucoup dans la société civile. On en a moins en ce moment. On n'a pas suffisamment eu le temps d'élargir encore. Mais parce qu'on a travaillé pas mal depuis 2 ans sur les politiques, c'est-à-dire qu'on a rencontré les principaux partis politiques, on les a interrogés, etc. Et donc, on a été reçus par le comité d'études de la presse de l'Assemblée nationale. Bon, donc, on a sensibilisé un certain nombre de gens. On a fait de très gros progrès. On ne nous dit plus dans la profession, tiens, on souhaite faire une instance de co-régulation. On ne veut pas de conseil de l'ordre. Nous non plus, on ne veut pas de conseil de l'ordre. Justement, on ne veut pas de conseil de l'ordre. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de fantasme dans la profession sur le conseil de l'ordre. Alors maintenant, les gens assimilent à tort les ordres à Vichy, alors que Vichy, je crois, a créé un ordre, tous les autres ont été créés avant, la plupart des autres ont été créés avant. Ça ne concerne que les professions libérales, donc ça n'a rien à voir. Que le syndicat national des journalistes entre 1930 et 1938, souhaitait vivement la création d'un ordre des journalistes. C'était même inscrit en toute lettres en 1935 dans la lune de son bulletin. Donc, je veux dire, il n'y a rien de... Bon. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, parce qu'un ordre, c'est corporatif. Nous, ce qu'on veut, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Qu'est-ce que c'est notre projet ? Une instance tripartite, où, mettons, de 24 membres. Il y aurait 8 représentants des éditeurs, 8 représentants des journalistes, 8 représentants du public. Son rôle, il reçoit des plaintes du public. N'importe qui peut le saisir, aussi bien des gens, à condition que la plainte soit recevable, notamment que les gens soient concernés par la plainte, évidemment, plus ou moins, de près ou indirectement ou directement. Donc ça, tous les conseils de presse dans le monde ont des critères de recevabilité des plaintes. Bon, recevoir des plaintes, bien entendu, les professionnels, les politiques, n'importe qui pourrait déposer une plainte, un homme politique, un journaliste, évidemment, bien sûr. Ou le conseil s'auto-saisit, et notamment il peut s'auto-saisir sur des problèmes très généraux qui concernent plein de médias. Prenons par exemple l'affaire Doutreau, si vous voulez. L'affaire Doutreau, après l'affaire Doutreau, vous savez qu'il y a eu une commission parlementaire de l'Assemblée nationale qui a enquêté longuement et de façon très intéressante, à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan des médias, sur l'affaire Doutreau. Beaucoup de confrères ont été à ce moment-là interrogés, etc. S'il y avait eu un conseil de presse à cette époque-là, bien entendu, il serait immédiatement auto-saisi d'un problème pareil, sans attendre qu'il y ait une plainte. Ça arrive, c'est un problème gigantesque qui concernait tout le monde. Lorsqu'il peut le faire, il fait de la médiation. De toute façon, s'il a reçu la plainte, il émet un avis favorable ou défavorable, selon les cas, tenant lieu de sanctions morales. C'est-à-dire, seul cet avis publié sur un site, et ce serait l'idéal, ce qui est fait dans un certain nombre de pays, ça serait peut-être difficile en France, au moins au début, serait publié au moins par le média qui est concerné, comme l'oblige le droit de réponse, par exemple, légal. Bon. Et puis, mais déjà, cette publicité est une sorte de sanction morale. Et d'autre part, comme l'est le médiateur dans son entreprise, cette instance nationale pourra être un lieu de débat, un espace de débat, un espace de veille déontologique permanente, un espace de pédagogie aussi, comme le sont les médiateurs, à l'égard du public comme de la profession. J'en termine en disant que dans cette direction, donc, on a été très, très déçus, par exemple, que les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord en 2011 sur l'adoption d'un texte de référence déontologique commun. Mais, encore une fois, on peut très bien inverser les choses, dire on peut très bien créer une instance d'abord. Il y a des pays, par exemple... Le dernier conseil qui s'est créé en Europe, c'est le Conseil de déontologie journalistique de Belgique francophone. C'est dans la partie francophone, la communauté francophone de Belgique, et c'est 2009. C'est avril 2009, août 2009. Et une des tâches qu'a fixé le législateur de Belgique francophone à ce futur, puisque le législateur avait simplement... décider de permettre la création par la profession de cette instance. C'est-à-dire, il a institué les conditions qui permettaient le fonctionnement, la création et le fonctionnement par la profession d'une telle instance. Ce qui a été fait, effectivement, et dans les missions de ce conseil, il y a la rédaction d'un code, par exemple. Donc, bon. Et puis, on ne manque pas de code, et notamment le premier d'entre eux. Je veux dire, même on peut très bien créer une instance et puis en attendant que tout le monde s'accorde sur un code, on peut quand même soit en prendre un, soit en prendre tous, soit les prendre tous. Et donc, d'ailleurs, on a fait à la PCP, on est en train de terminer ce travail, on a fait un travail très intéressant ces derniers mois. On a regardé les 5 textes principaux de référence en France déontologie de l'information. Ils sont pratiquement tous les principes sont pratiquement communs. Ils ne se contredisent pas, ils se complètent. Voilà, en gros. Donc, c'est voilà. Donc, on en prend un, on en prend cinq, bon, peu importe. Et pour Donc on a été déçus par ça, mais on continue à creuser notre sillon de façon très modeste. Et on est en train de réunir, et ça c'est un truc qui peut être très intéressant parce que je pense que ça sera une prise de conscience à la fois pour le public et pour un premier signe pour le public et pour la profession que les choses qu'on peut faire des choses et qui vont dans le bon sens. On est en train de créer avec environ 25 organisations ou personnes physiques, il y a deux médiateurs, organismes comme des écoles, organisations de la profession ou hors profession, un observatoire de la déontologie de l'information. Actuellement, les statuts sont en cours de rédaction. Les membres, il y a environ 25 personnes qui... surtout des organisations, hein, des syndicats, des syndicats patronaux, des associations, etc., des associations comme Information et Citoyenneté, qui fait partie de ce deal, etc. Et on est en train on va essayer de créer cet observatoire pour, on espère, pour la rentrée. On voudrait pouvoir l'annoncer à Poitiers au début octobre aux assises du journalisme. Voilà. J'ai été trop long.
Un journaliste est toujours bavard.
Oui.
Je voulais juste faire une petite précision sur ce que Yvan Niès en a parlé. Parler de la commission de la carte. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, les journalistes sont évidemment au courant. Les journalistes ont une carte de presse. Donc ça, c'est une carte de presse qui est délivrée par une commission nationale qui la délivre tous les ans. C'est-à-dire que le journaliste peut perdre, entre guillemets, sa carte tous les ans, puisque bon, il y a beaucoup de règles à respecter, notamment une principale, c'est que 51% des revenus soient dans l'activité journalistique. Donc voilà, c'est un des critères. Bon, il y en a d'autres, évidemment, mais c'est vrai que c'est une principale. Donc, et donc c'est pour ça que en fait un journaliste a une carte, mais il n'a pas une carte à vie. On peut être journaliste à vie, on est journaliste, mais après quand on obtient la carte, chaque année, elle est renouvelée.
Pardon ?
Est-ce qu'on est journaliste par la formation ou par la profession ?
Par la profession. Il n'y a aucune formation obligatoire pour être journaliste, aucune.
Voilà.
En France, je précise.
C'est vrai qu'il
parce que c'est très différent dans la plupart des autres pays.
Oui, parce qu'en France,
nous avons la profession la plus désorganisée qui soit.
Parce que vous savez peut-être, il y a des écoles de journalisme, des écoles qui forment au métier de journaliste. Donc, il y a ce qu'on appelle les écoles reconnues par la profession, des écoles non reconnues par la profession. Donc, ça aussi, ça fait partie des débats dans la profession sur la reconnaissance de certaines écoles, sur la non-reconnaissance par rapport à la pédagogie, par rapport à plein de choses. En gros, il y a 13 aujourd'hui. C'est Marseille
la dernière, c'est Sciences Po.
Sciences Po Paris. Donc il y a 13 écoles, 13, donc 13 écoles qui forment.
Qui sont reconnues à la fois par l'éducation nationale, puisque la plupart sont des écoles universitaires ou privées, et par la profession, par une commission spéciale paritaire de la profession, la CPN.
Voilà. C'est très complexe. C'est vrai que c'est un métier très ouvert.
C'est plus important dans l'audiovisuel. Il y a très très peu de chaînes de radio et de télévision qui embauchent maintenant sans une formation professionnelle. Mais en presse écrite, c'est plus facile d'y rentrer sans formation professionnelle.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat parce que je pourrais citer un certain nombre de gens qui ont fait des écoles qui ne sont pas forcément des...
Tu pourrais citer qu'on n'a pas fait d'école qui sont excellents.
Oui, bien sûr.
Il y a deux.
Par les 13. 85%. 85%.
N'importe qui va s'allonger sur une table de billard. J'ai peur.
Préfère être opéré par un chirurgien
qu'il y a des gens qui viennent de l'université. Il y a des gens qui ont appris le métier à la rédaction de Centre Presse le week-end en allant faire des piges au service des sports. Il y en a d'autres qui sont passés par une fac d'histoire. Il y en a qui sont passés par le CFJ, quand j'ai été directeur, ou par je ne sais quoi. Donc il ne faut pas dire... Moi, j'accepte assez mal d'entendre des trucs comme ça. Quand tu dis, on voit ce que ça donne. La profession des journalistes, c'est comme les flics, c'est comme les médecins, c'est comme les couteliers, etc. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Comme a dit Jean-Claude Alani, il y en a qui sont passés par des écoles qui sont excellents, il y en a qui sont passés par des écoles qui sont les pires. Voilà, c'est tout. Je veux dire, se focaliser sur la formation, c'est de préférence un métier. Il vaut mieux l'apprendre dans une école et dans les écoles de journalisme, notamment dans les écoles qui sont reconnues. Il y a tout le temps des modules de formation à l'éthique.
Ouais. C'est obligatoire maintenant même.
Il y a même les syndicats qui viennent généralement faire une journée, deux journées, trois journées pour apprendre aux journalistes qu'est-ce que c'est que la convention collective, qu'est-ce que c'est que leurs droits et leurs devoirs, etc. Bon, après, on peut gloser pendant des heures sur l'état de la profession.
C'est Christian qui s'appelle.
Oui.
Voilà, oui. Mais on peut peut-être donner un petit complément à propos de ce que tu viens de dire, Christian. C'est que... une des vieilles revendications, et notamment de notre compère Loïc Hervouet, de l'école de Lille, de faire une formation obligatoire pour de courte durée pour tous les gens qui ne sont pas, les 85% qui ne sont pas rentrés qui ne sont pas passés par les écoles des journalistes reconnus. Et bien, ça, c'est en train de se mettre en place à la suite des états généraux de la presse écrite. Il y a eu la création par ces écoles de journalisme et la commission paritaire d'une conférence nationale des métiers du journalisme, la CNMJ, laquelle, au bout d'un an, a proposé l'adoption par les partenaires sociaux d'un passeport professionnel de 15 jours de 15 journées. De 15 journées de formation, droit et technologie essentiellement, et un peu d'éclairage sur l'économie des médias. Mais essentiellement droit et technologie hein, sur l'ensemble. Et là, les deux branches de la CPNJ, donc la commission paritaire emploi-formation des journalistes, la branche presse écrite et la branche audiovisuelle, ont adopté toutes les deux... comme priorité de branche, l'inscription de ce passeport pour les formations. Donc, je crois qu'on va commencer cette année à titre expérimental, si j'ai bien compris. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout obligatoire encore, mais je pense que ça peut le devenir. On aura déjà, sur ce plan-là, au moins une petite base. Tous les journalistes français auront peut-être une base droit et déontologie de la profession, ce qui est quand même un ciment important.
Voilà, c'est pour ça que on est là ce soir justement pour débattre.
Mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, non mais ça. Je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord avec Christian Toi pour dire que c'est que le problème ne se résout pas à une question de formation. Parce que même, vous savez, il y a des gens, on prenait l'exemple des ordres professionnels, dans les ordres professionnels, il y a des problèmes de déontologie comme partout, et il y a des sanctions quelquefois qui tombent parce que les gens se conduisent mal. Donc, et encore une fois, ce n'est pas notre problème, parce que nous, on a un double problème par rapport à la... Les ordres professionnels, eux, ils ne s'intéressent qu'au comportement personnel de l'individu. C'est-à-dire qu'ils sont chacun et profession libérale responsable de ses propres cas. Mais nous, on a deux structures. On a le journaliste qui a sa conscience, son travail, qui est responsable au titre de la loi, etc. Mais vous avez aussi toute la structure du média, c'est-à-dire la chaîne hiérarchique et le directeur de la publication. Tout le monde est responsable. Donc, et général. Même si c'est un petit journal, ça compte. Et en tout cas, dans des grosses structures, ça compte énormément. Et on ne peut pas... voilà, c'est plus complexe que simplement une question de formation. Oula. En pleine évolution, cher ami.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de débats. C'est une profession qui peut amener, comme dans beaucoup de professions, qui peut amener beaucoup de débats. C'est vrai que ce soir, on peut sortir 15 débats et on n'en sortira jamais. Donc là, c'est vrai que ce soir, nous, c'est le public et les journalistes. Donc là, vous êtes le public. Alors c'est vrai qu'il y a des journalistes dans l'assistance. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait le public qui puisse poser des questions. Yves Agnès et Jean-Claude Alanic pourront répondre évidemment, mais après, s'il y a des journalistes comme Christian ou d'autres qui sont de la profession, qui peuvent répondre. Donc, est-ce que dans le public, vous avez, alors après avoir entendu Jean-Claude et Yves, côté médiateur et côté préfiguration d'un conseil de presse, vous avez des questions qui vous taraudent et vous aimeriez avoir des réponses?
Je suis un gros consommateur d'informations et de réflexions. Et du coup, il y a un certain nombre de choses qui, depuis pas mal d'années, commencent à m'inquiéter. Il se trouve que j'ai fait une carrière professionnelle au ministère de la Justice et dans le domaine de la délinquance. Voilà. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Je suis extrêmement étonné de l'invasion progressive du fait divers dans la presse audiovisuelle et avec bien sûr les sommets atteints récemment lors des petites histoires d'un de nos hommes politiques là où on a eu ça en boucle pendant je ne sais plus trop quoi 72 heures au moins sans qu'il y ait la moindre information dedans.
Vous parlez de Toulouse, Non,
non, je parlais de New York.
Ah, de New York.
De l'affaire des escarres. Mais alors, au-delà de l'invasion des médias audiovisuels, il y a un deuxième échelon qui m'inquiète encore plus, qui est l'invasion de journaux locaux qui sont maintenant quasiment tous en situation de monopole, c'est-à-dire qui n'ont pas de concurrence sur le territoire. Et qui peuvent dire n'importe quoi, et ce sera la vérité. Je vous prends un tout petit exemple, parce que celui-là était vraiment fort de café et posait quelques problèmes de déontologie journalistique. Il se trouve qu'il y a un quotidien du sud de la France, ni ouest ni est, qui généralement sur... 15 titres sur sa lettre quotidienne par Internet, vous envoie 11 faits divers sur les 15. Il leur arrive d'envoyer 15 faits divers aussi. Et alors, ce même journal a titré une fois, j'ai trouvé ça très bien, 2010, oui c'est ça, c'était en 2010, oui c'est ça, c'était 2010. 2010, dans le Gard, l'année des meurtres. Et suivez un article... très très bien fait, où il commençait effectivement par un meurtre qui s'était passé en 2010 dans le Gard, puis par trois affaires qui étaient passées devant la cour d'assises du Gard, puis par deux affaires qui étaient passées devant la cour d'assises d'appel du Gard, donc tout ça s'était pas passé pendant l'année 2010, et il finissait par le licenciement de 10 salariés par SMS. Je veux dire, mais l'apothéose... Alors je réagis en disant, je suis désolé, mais vous êtes trompé, vous avez raconté une belle histoire, mais qui n'a rien à voir avec le titre que vous mettez à la une. Il ne s'agit pas de meurtre dans le Gard, il n'y en a pas plus que d'habitude, etc. Tout ça est de la fausse information, complètement de la fausse information. On n'obtient aucune réponse sur ce type de choses. C'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des réponses quand, effectivement, on est critique sur un fait de société, etc. Et il m'est arrivé de voir mes petits papiers, quand je réagis, passer dans tel ou tel journal. Voilà. Là, sur un truc pareil, on n'obtient rigoureusement aucune réponse. C'est-à-dire que les gens ne se justifient même pas de dire des énormités aussi
farmineuses. D'autant que Midi Libre... D'autant que Midi Libre avait un poste de médiateur et qu'il l'a supprimé.
Monsieur Jean-Claude,
oui, je peux dire simplement deux mots sur les faits divers. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il y a tant de faits divers. Bon, je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses, mais je sais qu'à un moment donné, en 2002, on a dit que c'était pour des raisons politiques, etc. C'était peut-être vrai à ce moment-là, mais en tous les cas, ça ne peut pas expliquer sur la durée pourquoi tant d'importance. Alors, je crois qu'il y a plusieurs phénomènes qui interviennent. Enfin, je parle surtout pour la télévision, mais c'est vrai que c'est là qu'on a la télévision, la radio, l'audiovisuel. C'est là qu'on a le plus de faits divers. C'est que, premièrement, les faits divers ont ce gros avantage. D'une part, généralement, ça se passe en France, donc ça ne coûte pas très cher. Ce n'est pas des choses décisives, donc si on dit des bêtises... C'est pas trop grave, hein, le lendemain ou le surlendemain, on aura complètement oublié. Et ça occupe les journalistes et les téléspectateurs d'une manière quasiment à plein temps, ce qui les empêche de faire de l'investigation ou de creuser des sujets qui vont être beaucoup plus délicats, qui vont être en cause soit des intérêts économiques, soit des intérêts politiques ou des personnes, choses comme ça. Donc finalement, ça mange pas de pain. C'est une première explication que j'ai. La deuxième, c'est qu'il y a une expression que, alors, je ne sais pas si on l'utilise encore maintenant, mais qu'on utilisait beaucoup à la télévision, c'était la notion d'information concernante. Il fallait faire pour le public des informations concernantes. Ça veut dire quoi, une information concernante? Que les gens se sentent concernés. Alors c'est vrai que ce qui se passe au fin fond de la Chine ou en Ouzbékistan, je m'en fiche un peu, je ne connais pas, enfin, c'est un peu compliqué, où c'est où tout ça, puis de toute façon, il faudra envoyer des équipes de reportage et tout, c'est pas simple. Donc le miroir qu'on est censé tendre vers le monde extérieur, hein, ouvrir la fenêtre vers la planète, vers ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, ça peut être à côté, ça peut être une information de proximité, bien entendu. Hein, c'est pas dans une ville comme Poitiers que je vais dire que l'information de proximité ne présente aucun intérêt. Mais on ne va pas chercher loin. Parce qu'il faut que les gens s'y retrouvent. Ce qui fait qu'on leur parle. Alors hier, moi, j'étais en écoutant une radio... Ça m'a énervé parce qu'il y a eu un vol dans une bijouterie à Asnières. Donc le journaliste était sur place. Hein, donc je ne sais plus combien de bijoux ont été volés. Il n'y a pas eu de victimes ou quelque chose comme ça. Et il y avait une interview d'une personne qui n'a rien vu, mais qui expliquait qu'elle avait rien vu. Elle a dit, bah oui, je discutais justement. J'avais discuté quelques minutes avant dans le couloir avec la bijoutière. Puis après, moi, je suis allé faire mes courses et tout. Et quand je suis revenu, les voleurs étaient passés. Ils avaient dérobé les bijoux et ils étaient repartis. Donc, je me suis dit, mais c'est vraiment le niveau zéro du journalisme. Mais pour vous titiller un petit peu, c'est effectivement plus facile et moins embêtant que de parler de l'affaire DSK, qui n'est pas exactement, à mon avis, un fait divers, parce que ça met en cause un homme politique de premier plan et que ça... des jugements qu'on peut avoir sur la vie privée, c'est quand même une histoire complexe, intéressante, et je pense qu'on ne parlera pas beaucoup de la bijoutière d'Asnières dans les jours qui viennent, ou dans les années qui viennent, mais je pense que l'affaire DSK, on en parlera peut-être encore dans 50 ans.
Oui, mais...
Non, mais c'est pour la presse écrite, ça.
Non, mais là, je parle de la presse.
Oui, de proximité, bien sûr.
Dans la PQR, il y a deux choses qui font vendre particulièrement, c'est les bons événements sportifs et les faits divers.
Il n'y a pas que ça.
Mais quand même, il y a une bonne...
Pour en avoir fait pendant 6 ans, il n'y a pas que ça. Hein. Ce n'est pas là-dessus. Nous, on a battu à plate couture à Ouest-France, Paris-Normandie, notre concurrent direct, parce qu'il avait à l'époque une politique, c'était le fait divers, qui à faire de la gonflette. Et nous, on avait une politique beaucoup plus diversifiée. Notre première priorité, c'était économique et sociale. La deuxième, c'était université jeunesse. On n'oubliait pas les faits divers, etc. Bon, culture, etc. Et avec ça, on a gagné sur la ville de Caen 1000 lecteurs par an pendant 3 ans, les 3 ans où j'y étais. On les a écrasés. Donc, il n'y a pas que les faits divers. Hein. Mais moi, j'aime bien les faits divers. Et excusez-moi, mais moi, j'adore qu'on me raconte de belles histoires. C'est-à-dire que ça fait partie du journalisme. Pour, d'abord, on aime bien qu'on se raconte de belles histoires. Et en plus, le fait divers, c'est la vie. C'est la turpitude de l'espèce humaine en permanence. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est la réalité qu'on nous montre. Et on dit très souvent que la réalité dépasse bien souvent les romans, la réalité, l'horreur d'un certain nombre de faits divers. Donc, quand on nous raconte des belles histoires, moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, qu'il y en ait trop à la télévision, moi, je pense qu'il n'y en avait pas assez autrefois. Donc, alors, il y a peut-être une question d'équilibre. Bon, pourquoi il y en a plus trois choses marquent l'évolution de la télévision depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années. Trois mots, spectacle, émotion, immédiateté. Donc, avec ça, vous avez la grille de fabrication d'information. Quand je dis spectacle, j'inclus images, évidemment, parce que la première grille de fabrication de l'information à la télé, c'est qu'il faut des images. Quoi. Alors, on fait n'importe quoi comme image, comme l'interview ridicule en question, mais il faut avoir de l'image. Je sais bien, j'ai une fille qui travaille à TF1, elle sait ce que c'est. Voilà. Un mot sur le monopole PQR. Moi, je dirais qu'il y a quand même... avant d'être à Ouest France, j'étais dans un petit journal qu'on a appelé par la suite l'ancêtre des City Magazine, un journal local hebdomadaire qui s'était créé à Caen et qui était un hebdo de ville. Et il y en a eu d'autres, notamment à Montpellier. Le plus fameux, parce que la Gazette de Montpellier, c'est sans doute le plus gros tirage des hebdos de ville actuellement. Hein. Il doit vendre à plus de 25 000 maintenant, etc. C'est une très, très belle réussite. Et ce petit journal fait par d'anciens étudiants, etc., qui ne savaient rien faire, etc., mais on a quand même réveillé un peu Ouest-France et Paris-Normandie et encore un autre journal qui roupillait à ce moment-là tranquillement dans leur basket. Quoi. Donc, je pense que qu'il faut réveiller la PQR d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait des initiatives pour réveiller la PQR. Et ça lui ferait le plus grand bien, parce qu'elle a tendance à s'endormir encore plus s'il y a le monopole. Alors, il y a le monopole maintenant quasiment partout. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, alors, il y a la presse électronique. Allez voir, par exemple, un site qui s'appelle dijonscope.com. C'est un journal local de Dijon sur Internet qui est sacrément bien fait. Oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer des nouvelles choses comme ça, des nouvelles façons de faire de réveiller? Et je dis que si on réveille les gros médias, peut-être ça apportera des fruits, je ne sais pas.
Une question?
Il y a un aspect que vous n'avez pas beaucoup évoqué. Enfin, je trouve, je crois. L'information, c'est aussi un produit commercial. C'est un produit qui est vendu. Il est vendu soit directement à quelqu'un qui achète un journal, il peut être vendu également par la publicité qu'il rapporte alentour, il est vendu en audiovisuel par l'audimat, puisque l'audimat fera monter les tarifs de publicité, il est vendu aux gens qui payent un abonnement à des chaînes câblées, etc. Donc c'est un produit. C'est un produit, ce n'est pas un pur service public sans aucun aspect commercial. Certes. Autrement dit, moi je veux bien qu'on cherche toutes les raisons possibles, par exemple au fait divers, pourquoi est-ce qu'on fait du fait divers? Je crois qu'il y a une réponse qui s'impose. On vend du fait divers parce qu'il se vend. Enfin, je crois que c'est tout simple. Et pourquoi est-ce qu'il se vend? Pourquoi est-ce qu'il se vend? Est-ce que c'est parce que... Les braves lecteurs ne font pas partie de cette élite dont nous nous targuons d'être ce soir. Et ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Non. Ils s'intéressent aux faits divers comme moi-même je m'y intéresse parfois, parce qu'effectivement, ce sont des révélateurs de notre société. Ce sont des révélateurs de ce que nous sommes. Vous aviez raison, lorsque vous parliez de turpitude de l'espèce humaine, peut-être. Mais ce n'est pas seulement la turpitude. Au travers d'un fait divers, c'est toute une société qui peut apparaître. C'est toute une société avec ses tares, avec ses problèmes, avec les problèmes du vivre ensemble, avec les problèmes éducatifs, avec des tas de problèmes. Autrement dit, le problème n'est pas de parler du fait divers. Le problème, c'est de savoir comment on en parle. Autrement dit, oui. Si, au travers du fait divers, on relève l'aspect sociologique de ce fait divers, ça devient extrêmement intéressant à ce moment-là. Le fait divers devient extrêmement intéressant. Oui. Quelles sont les relations des êtres entre eux, oui, au sein de la cité, au sein de la famille, au sein de d'où il s'est passé quelque chose.
C'est vrai que c'est...
Donc, oui. Mais encore une fois, l'essentiel, comment est-ce que vous en sortez avec votre conseil de la presse, etc., à partir du moment où nous avons affaire à un produit commercial.
Oui, oui. Justement, de donner la parole à Jean-Claude Alany, justement, en tant que médiateur, ce qui peut être intéressant justement de savoir, c'est quels sont les retours par rapport au traitement du fait divers du public. Est-ce qu'il y a des critiques sur le fait de trop ou pas assez traiter le fait divers, ou est-ce que c'est une envie d'avoir des faits divers, ou c'est justement, quelle est la relation parce que c'est vrai que, j'allais dire vulgairement, parfois on donne à manger. Christian le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un aspect commercial. Le fait divers, bon, je prends en télé, notamment en service public, on ne vend rien, nous. Nous, on directement, je veux dire, non mais on fait un journal le soir, on ne va pas demander aux gens de l'acheter pour le regarder. Ou...
Non,
c'est pas ce que je veux dire.
Il n'y a c'est pas une adhésion voilà, individuelle, quotidienne.
En presse écrite, vous passez devant un kiosque. Vous voyez une une qui peut attirer votre attention et vous allez acheter le journal. Donc, il y a ces aspects-là. C'est pour ça que la relation avec le public et le média sur les faits divers, est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a une critique, justement, comment la relation est difficile ?
Alors, Yves répondra sur un certain nombre d'aspects, notamment les faits divers. Je suis assez d'accord. Un fait divers, ça peut être intéressant si on le traite bien. Tout à fait. Simplement, je suis d'accord aussi que l'information, c'est une marchandise, c'est un produit, que même certains journaux, c'est le cas de la presse gratuite, c'est de la publicité enrobée d'informations. Un journal fait appel à la publicité pour vivre, la presse gratuite, elle fait appel à l'information pour se donner une crédibilité, que les gens prennent, parce que s'il n'y a pas d'information, ils ne prendront pas le journal gratuit. La preuve, c'est que les journaux gratuits ne paraissent pas pendant les vacances. Que les journaux gratuits, de temps en temps, ils resurgissent pendant les vacances, pendant une journée. Par exemple, à Paris, quand il y a un truc de un festival de rock, je ne sais pas trop quoi, c'est toujours fin août, il y a toujours, je ne sais plus si c'est 20 minutes ou ça va être 20 minutes, qui ressort cette journée-là simplement, et parce que ce sont des pages consacrées uniquement, enfin pas uniquement, il y a un peu d'informations, mais c'est essentiellement la publicité qu'ils vendent. Alors maintenant, pour revenir à la télévision, le public, soit on considère que le public, on lui donne ce qu'il attend, en grosso modo, on a le public qu'on mérite, ou soit le public, on considère qu'il attend peut-être autre chose, et là, on peut trouver un autre public. Si je prends l'exemple de France 2, d'Antenne 2, parce que quand je suis entré, ça s'appelait Antenne 2, Antenne 2, il y a une période, vous vous souvenez peut-être, enfin, ceux qui sont plus vieux, qu'on était leader en termes d'information. C'était la 2, notamment quand les journaux étaient présentés en alternance par Bernard Rapp et Claude Sirillon, on battait TF1 à plat de couture. À l'époque, il n'y avait pas de publicité à la télévision. Je suis remarqué au passage. Donc, la notion de commercial était un petit peu différente. À l'époque aussi, il n'y avait pas de maison de production extérieure. Tout se faisait soit rue Cognac-Jay ou ensuite Avenue Montaigne, dans des studios. Donc, on côtoyait Bernard Pivot, qui avait sa apostrophe dans les studios. Côtoyait, quelle chance, Dorothée, qui faisait Récré à deux. Côtoyait les chiffres et les lettres. Tout ça se faisait en interne. Et je me souviens de Pivot, quand il y a eu les débuts de la privatisation, etc., qui disait, je ne comprends rien, tous les trois mois maintenant, on m'augmente. Parce que les nouvelles directions ont tellement peur qu'ils partent dans le privé. Donc, il demandait rien, mais il était constamment augmenté. Donc, il n'a jamais dit non. Donc, on était leader. Et les études qu'on faisait, c'était on avait à peu près le même public que Le Monde, qui tirait beaucoup plus que maintenant. C'est-à-dire un public assez cultivé, qui s'intéressait à pas mal de choses, à la culture, à la politique étrangère. Donc, les faits divers, c'était ou la météo, si... vous savez, oui, là, il commence à faire chaud. C'est quand même assez extraordinaire. On est fin mai. Ça mérite quand même de faire beaucoup de sujets dans un journal, hein, qu'il commence à faire chaud fin mai. Donc, c'était différent. Alors, moi, souvent, la remarque que j'ai eue de certains confrères de la hiérarchie de France 2, c'était s'ils ne sont pas contents, c'était les téléspectateurs, ils n'ont qu'à regarder Arte. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se surait Arte. Oui, bah oui. C'est vrai, mais sauf, oui, sauf que Arte, c'est pas le service public. C'est très bien Arte, moi je veux bien. Hein, mais on a un devoir de service public. Et quand vous parlez de commercial, moi j'ai été étonné que quasiment tout le monde proteste quand Sarkozy a supprimé à moitié la publicité sur le service public. Je m'étonne aussi qu'apparemment il est question maintenant de ne pas continuer l'application de la loi qui prévoit la suppression totale de la publicité. Je m'étonne aussi quand les hommes politiques, de droite comme de gauche, ne veulent surtout pas augmenter la redevance audiovisuelle. Donc on ne peut pas faire de la télévision sans argent, c'est bien évident. Donc comme l'argent il en faut, il faut bien la trouver quelque part. Donc si ce n'est pas les citoyens, si ce n'est pas par les impôts, tout ce qu'on veut, c'est par la publicité. Donc on tombe dans le phénomène commercial. Et moi ce qui me frappe, quand j'étais avant d'être médiateur dans une autre vie, quand je faisais une émission, alors que les jeunes gens là, n'écoutent plus, ça s'appelait C'est la vie. Au début, on présentait ça avec Noël Mamère, puis après, comme Noël Mamère est parti, je l'ai remplacé. De C'est la vie, on avait un ton tout à fait libre. On pouvait s'attaquer aux intérêts économiques, y compris à des amis du gouvernement de l'époque. Je me souviens, on avait attaqué. Comment ça s'appelait ? C'est la maison Phoenix. Il y avait des malfaçons et tout, donc on a fait un sujet là-dessus. Et à la veille de l'antenne, alors là, ceux qui sont plus jeunes, ils vont se dire, il sort de quel siècle celui-là ? J'avais reçu un téléx quelques minutes avant l'émission, disant nous sommes amis avec le Premier ministre Raymond Barre, et si jamais vous dites ce que vous avez prévu dans votre reportage, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis descendu à l'antenne. Avec Noël Lamère, donc j'ai présenté le reportage, et Noël me dit, alors Jean-Claude, avant de venir, là, vous avez un téléx à nous lire. Ben oui, voilà, donc tout à l'heure, voilà le téléx qu'on a reçu. Il n'y a jamais eu de suite. Après, quand il y a eu la publicité, je me souviens, une fois, on avait attaqué Lee Cooper, et ils avaient menacé de supprimer le budget publicitaire. Donc je suis allé voir la direction en disant, bon voilà, nous on a fait notre reportage bien, enfin, il n'y a pas de problème, mais il menace ça. Et la direction avait répondu, mais il n'y a pas de problème, hein, vous faites ce que vous avez à faire. Et on avait perdu le budget du Cooper qu'on a récupéré quelques temps après. C'est inimaginable actuellement, je pourrais confirmer, qu'ils puissent avoir ce type de rapport. On fait les émissions, y compris dans le service public. Alors, je parle peut-être plus pour national que régional, parce que en plus je ne connais pas le régional, enfin pas très bien. Dans le national, on fait des émissions en fonction de la ménagère de moins de 50 ans. Et qu'est-ce la ménagère de moins de 50 ans, qui elle intéresse ? Pas les jeunes, parce qu'elle a plus de 50 ans. Pas les hommes de plus de 50 ans, parce qu'ils sont déjà. Donc elle intéresse que les publicitaires. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette pression de la publicité, du commerce, du marché des intérêts économiques qui est très forte. Et à mon avis, un des seuls moyens de s'en sortir pour le service public, le privé, c'est le privé, c'est de supprimer la publicité et d'augmenter la redevance. Je vais devenir populaire. Hein.
C'est pas dans les tuyaux, en tout cas.
C'est pas dans les tuyaux, non.
Mais c'est là, il parle plus dans les pays, de si mettre la publicité jusqu'à 21h plutôt que la...
Quand on voit la BBC et tout, hein, les choses sont claires.
Tu n'as pas parlé de placard. Il faut vider les placards.
Il faut aussi... Alors, il y a un autre problème qui est le problème de la gestion. Mais là, je ne préfère pas évoquer la question. J'essaie de reconquérir des amis dans le milieu. Non, je ne vais pas commencer à me fâcher de nouveau.
Ivanier, sur le public, oui.
Non, ce n'est pas sur le public. C'est parce que notre ami a prononcé le mot de conseil de presse, justement. C'est bien joli, le conseil de presse, mais il y a l'économie, etc. Je pense l'inverse. C'est-à-dire que je crois que la restauration d'une bonne santé économique pour tout un tas de médias passe par une meilleure qualité de l'information, par un meilleur rapport avec le public. Je pense que cette situation, et notamment pour la presse écrite, est extrêmement préjudiciable à la santé économique des médias. Et d'autre part, en ce qui concerne la profession de journaliste, je crois qu'actuellement, c'est une profession qui était extrêmement en danger. Elle est mise en danger parce qu'elle n'est pas très bonne, comme on l'a dit déjà depuis tout à l'heure, qu'il y a des nouveaux, il y a une concurrence par Internet et par des gens qui arrivent sur ce secteur sans être des journalistes patentés, etc., sans être des médias officiels, et qui vont bousculer tout ça et qui mettent des grands coups de pied dans la fourmilière, et donc la profession est menacée. Or, Internet, qu'est-ce qui peut différencier un professionnel d'un non-professionnel ? Uniquement le sérieux, la rigueur, la crédibilité. Si les médias et les journalistes n'ont pas le sérieux, la rigueur, la crédibilité, ils perdront sur tous les tableaux. Économiquement, ils continueront à s'enfoncer, comme la PQR. La PQR, qui, je dis en passant, ne fait pas beaucoup d'efforts quant au contenu pour se renouveler depuis 30 ans, alors que toc, 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 ça baisse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Moi, j'ai été reçu par la commission information du SPQR, le syndicat de la presse quotidienne régionale, il y a un an et demi, peut-être un an. Un an, oui. La commission information, elle réunit les rédacteurs en chef sous la houlette du patron de PQR et de Jacques Camus, l'ancien patron de la République du Centre, qui est toujours éditorialiste. Et j'ai vu des braves gens, des braves confrères, 20-25, mais contents d'eux, vous ne pouvez pas savoir, mais contents, tout va très bien, madame la marquise. On baisse sans arrêt, mais on n'a vraiment pas l'intention de changer quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas se remuer le cul. Donc, moi, je suis un peu désespéré quand je vois ce type d'analyse, ce type de comportement de gens qui ils sont en train de tomber dans le trou, mais ils accélèrent. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Je pense au contraire que la crédibilité est le moteur de la réussite économique dans une crise. On peut faire le parallèle avec la crise de la dette, si vous voulez. Il y a des choses à régler. Si vous ne réglez rien, vous allez être dans le trou. Si on ne règle rien, nous, les journalistes, on va dans le trou. Parce que le public, il en aura marre, il se contentera d'une dette. Ce serait bien dommage.
Est-ce qu'il y a une réaction du public ?
Il y en a des conneries sur le net, hein, aussi.
Il y en a des bêtises, il y en a partout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sur les journalistes, c'est la crédibilité, c'est sur la véracité de l'information. C'est vrai qu'un journaliste doit vérifier ses sources et vérifier l'information avant de la diffuser. C'est vrai que c'est la crédibilité et ce qui fait pour justement atténuer le malentendu qu'il peut y avoir entre le public et les journalistes.
C'est le gros problème actuellement, c'est ça. Il est censé vérifier les informations et il ne le fait pas.
Voilà ce qu'on parlait tout à l'heure de la concurrence, tout à l'heure de beaucoup de médias qui se développent. Et c'est vrai qu'il y a, on est poussé souvent à aller très vite. Je prends l'exemple de... ça a été sorti, c'est sur TF1. C'était l'histoire de correspondants dans les Alpes qui ont fait un reportage sur les assistantes maternelles. Qui ont pris comme intervenant l'attaché de presse du Conseil général. Et donc, parce que la demande a été faite qu'il fallait absolument le sujet pour le 13h. Donc, voilà. Alors après, on peut discuter. C'est vrai que le journaliste, enfin l'équipe, a fait ce travail. Est-ce qu'il y a derrière, il n'y avait pas une pression de la direction pour avoir ce sujet, quels que soient les intervenants ? Est-ce que le journaliste n'a pas dit attention, ce n'est pas
un sujet intemporel, hein.
Oui, c'est pas un sujet dans l'immédiateté. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement il y a toujours des cas et qu'il faut éviter au maximum.
Les journalistes ont été licenciés, enfin ils ont été contraints à négocier leur
et Monsieur Pernaud s'est excusé à l'antenne.
Oui.
Mais
en disant une nouvelle connerie, parce qu'il a dit c'est la première fois que ça arrive. Faut jamais dire c'est la première fois, jamais.
Surtout, où est la responsabilité?
Surtout qu'ils ont été sanctionnés plusieurs fois par le CSA.
Elle a fait la même chose déjà plusieurs fois.
De même que France 2 d'ailleurs.
Dans les trois années qui viennent de s'écouler.
Des faits similaires.
Elle a même été sanctionnée par le CSA pour des faits identiques.
Et là, c'était TF1. Non mais juste derrière, il y avait une question.
Merci. Je voulais me poser comme un élément du public, donc du deuxième terme de notre titre de ce soir, en faisant part de d'une espèce de règle que je me suis trouvé concernant mon rapport aux journalistes. Et je finirai par le retour aux faits divers dont nous avons souvent parlé avec mon bon ami Marc Poupard qui parlait tout à l'heure en précisant qu'il avait été au ministère de la Justice et ça m'aurait intéressé pour ce soir que les gens qui sont intervenus disent de quel point de vue ils s'exprimaient. C'est pour ça que j'ai commencé en disant je m'exprime comme un élément du public peut-être, hein, pas faisant partie de l'élite, Daniel. Moi je me dis maintenant, après 30 ans de lecture de presse régionale, ça fait 30 ans que je lis La Nouvelle République en gros, hein, un peu consciemment, j'ai dû lire d'autres journaux avant, mais ma mémoire ne remonte pas au-delà. Je précise aussi que je travaille pour la Ligue de l'Enseignement, donc c'est à ce titre-là aussi que l'intérêt de la soirée s'est présenté. Moi, je me dis aujourd'hui, plutôt un mensuel qu'un hebdo, par exemple le diplôme, mais il y a d'autres... Plutôt un hebdo qu'un quotidien, dans mes hebdos, il y a Politis et Le Canard Enchaîné, par exemple, plutôt un quotidien que la radio, c'est une espèce de hiérarchie que je me suis construite, plutôt la radio que la télé, et dans la télé, plutôt Soir 3 que le JT, même de France 2, tout ça parce qu'on est plus loin des événements, donc on a déjà eu un petit peu de temps pour y penser. Et puis je suis obligé de finir, parce que j'ai...
Le journal de la nuit aussi à minuit sur France 2.
Je suis obligé de finir, parce que j'ai deux très bons, très jeunes amis dans la salle. Plutôt, j'en étais où, donc au soir 3 avec le JT, et plutôt le JT que les infos que reçoit un de mes collègues sur son AI, avec un événement effarant. L'autre soir, nous étions en séance de travail, un travail professionnel, et d'un seul coup, il s'arrête parce que ça vient de vibrer, ça vient de s'allumer, en disant « Oh là là, l'avion de Hollande a pris la foudre. » Vous voyez quel jour il s'agissait. Et donc, j'ai rien dit, mais ça m'a vraiment assis. Alors, c'est là où je me dis que je fais vraiment beaucoup plus que mon âge. Voilà. Alors, tout ça, ça me ramenait aux faits divers et, par exemple, à la presse quotidienne régionale, puisque ma référence, elle est d'abord encore papier, même si je connais et j'apprécie d'autres supports. Marc, aujourd'hui, avant de venir ce soir, j'ai lu la page des faits divers de La Nouvelle République. Et j'ai été comme toi très longtemps, mais on en a parlé. Ce qui t'ennuie à l'époque, c'est que quand tu travaillais au ministère de la Justice, les faits divers, il n'y avait pas de précaution par rapport aux jeunes ou aux adultes qui étaient mis en cause. Donc on pouvait très bien donner leur nom en disant...
Madame. La loi l'oblige.
Comment ?
Alors que la loi oblige.
Oui, mais c'est ancien, là. On est un peu ancien avec Marc sur la lecture. Et donc il disait, je ne comprends pas que Madame Durand, qu'on dise que Madame Durand a encore tapé sur Madame Dupont qui lui avait, une fois plus, volé ses... Enfin, on s'en fout, mais... Donc c'était ça qui le gênait. Et aujourd'hui, j'ai lu la page des faits divers. Il y avait deux articles assez grands, donc je confirme que ça prend de la place. Je ne lisais jamais les faits divers dans La Nouvelle République il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et les deux faits divers, pourquoi je les lis ? Parce qu'en effet, ils sont éclairants, Daniel, sociologiquement. Aujourd'hui, il y en avait un, c'était hélas une triste histoire, sans doute trop fréquente, mais aujourd'hui on en parle, d'une jeune femme qui était battue par son compagnon, et qui donc avait été coincée après plusieurs fois où il avait échappé. Et le deuxième, qui me renseigne sur, en effet, la vie de la société, c'est une entreprise de, je ne sais pas quoi, de portes et fenêtres, qui était montée en flèche, qui avait fait un chiffre d'affaires considérable, mais qui perdait quand même de l'argent, malgré son développement fort en chiffre d'affaires, et dont les deux dirigeants s'étaient servis abondamment, l'un avec une Porsche, l'autre avec une BMW, je ne sais pas quoi, sans que personne n'y voit rien, jusqu'à ce que quand même... moi, je lis ça en me disant, et à chaque fois, je me fais l'effet, malgré mon âge, de dire, comment est-ce que c'est possible qu'une entreprise, dans un monde aujourd'hui où le culte de l'entreprise, l'entrepreneur, de la réussite, monte en flèche en chiffre d'affaires, une belle réussite, on dirait sans doute. Je ne parle pas du président sorti, mais bon. Et puis qu'on puisse se servir comme ça Voilà. Donc, en cela, les faits divers, malgré les roulements que j'ai donnés tout à l'heure, et sans doute mon recul en temps par rapport aux événements, et donc j'attends des journalistes qu'ils m'aident à comprendre, pas qu'ils m'informent, qu'ils m'aident à comprendre le monde qui m'entoure. Alors, je ne dis pas que c'est un... Je crois que j'ai mis longtemps à me forger cette culture. Aujourd'hui, elle est... je suis sûr que c'est ce qu'il me faut à moi. Je donne de leçons à personne. C'est bousculé par l'avion de Hollande qui est touché par l'orage à 17h50, alors que j'en ai objectivement rien à foutre à ce moment-là, plus l'Internet qui me questionne encore. parce que je pense que l'immédiateté, la nécessaire immédiateté ou le fait d'être branché constamment sur le monde entier n'est pas un des éléments qui me rendent plus conscient du monde. Par contre, j'attends des journalistes qu'ils m'aident à comprendre mieux le monde. Et donc, ce n'est pas grave s'ils ne me disent pas que la foudre a frappé l'avion.
Juste par rapport aussi à des interventions, d'être assez court, puisque c'est vrai que le temps passe malheureusement, et on se donne encore un petit quart d'heure pour faire ce débat.
Non, moi, juste un mot sur la fin de votre intervention, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la dernière phrase, quoi. Je pense que le rôle du journaliste, c'est pas seulement de chercher, d'aider à comprendre, c'est d'informer et d'aider à comprendre, c'est les deux. Je veux dire, si les faits ne sont pas correctement connus, s'ils sont déformés, s'ils ne sont pas bien contrôlés, s'ils ne sont pas proches de la vérité, à ce moment-là, que valent les explications qui partent sur des hypothèses fausses? C'est ce qu'on voit dans ces gloses sans fin des politiques et des intervieweurs politiques sur des tas de trucs qui sont inintéressants ou qui partent sur des chiffres faux, des chiffres contestables, des présupposés, des machins, etc. Donc je pense quand même que le premier travail du journaliste reste d'établir des faits. Mais un fait n'existe que par ce qu'il veut dire, enfin, que par son contexte, que par son... Un fait brut n'existe pas en soi. Donc, je suis d'accord que le deuxième travail du journaliste, c'est d'aider à comprendre, notamment par l'analyse. Je me fous pas mal du commentaire, mais l'analyse, oui.
Je crois que vous avez raison. J'attends
le journaliste qui m'informe pour m'aider à comprendre. D'accord, ok. Alors là, ok. Là, je suis dans... Alors, on est sur la même longueur. Donc.
Il y avait une question ?
Moi, je m'interrogeais aussi sur l'usage des images d'agences de presse. Pendant la campagne, c'était flagrant, puisque chaque parti a fourni ses propres images et toutes les chaînes ont réutilisé les mêmes, sauf Arte, justement, puisque je suis une fan d'Arte, qui a dit clairement dans un des journaux, on ne mettra pas d'images aujourd'hui parce qu'on n'a que des images d'agences.
Enfin, des images...
Alors, c'est pas des images d'agences.
Fournies par les partis. D'agences payées par les partis et mises en place par les partis.
Des boîtes de production.
Enfin, de boîtes de production payées par les partis.
C'est des sources elles-mêmes.
Payées par les partis politiques.
Ouais. Le sport aussi fait ça. Ça a commencé dans le sport. Ouais.
Là, une des règles déontologiques qu'on établit, même sans médiateur, on aurait pu les respecter, mais les médiateurs ont aidé à sensibiliser les rédactions à ce problème, c'est que de plus en plus, on reçoit des images fournies, soit, quand je veux dire, de sciences par la NASA, par l'INSERM, par le CNRS, par l'INRA, etc., ou maintenant par les partis politiques, ou par Renault, ou par telle ou telle usine, entreprise, Nestlé, enfin, tout ce que vous voulez.
Mais je sais ce que c'est, mon frère travaille dans une très grosse agence parisienne de com internationale, et donc, il fournit ces images.
Donc, la règle... On ne peut pas empêcher, naturellement, les partis politiques de filmer leurs propres images de meeting. Mais ils font de la communication. Donc, ce sont des images de communication. Si le candidat se casse la figure en descendant les marches, ou si, pendant qu'il parle, il y a son épouse qui est en train de dormir gentiment, ils ne vont pas montrer cette image-là parce que ça va prêter à soit sourire ou ça va être utilisé. Donc, qu'il le fasse, c'est une chose. Si on réutilise ces images, la règle, c'est de dire que ce sont des images fournies par l'UMP, par le PS ou choses comme ça. Et la deuxième règle, c'est que ça n'empêche pas qu'on ait le droit de filmer.
Exactement.
Ça, c'est quelque chose d'important. Alors naturellement, lorsque ce sont des grandes chaînes de télévision qui ont les moyens, etc., on suit tous les grands meetings, enfin, même les petits, enfin, parce que comme à la présidentielle, il y a toujours une tripotée de candidats dont certains ne représentent rien sinon eux-mêmes. Peut-être que Cheminade, on ne va pas suivre de manière très attentive, même si on lui donne la parole à égalité, parce que bon, c'est une règle bizarre de la démocratie dans le service, dans l'audiovisuel. Mais donc, c'est important de garder ce droit de filmer. Mais les petites télévisions, ou les télévisions chaînes en info continue, elles vont avoir tendance, on n'a pas les moyens, etc., c'est pas grave, on va se contenter des images qu'on nous fournit. Mais c'est vrai aussi
pour y compris pour la presse gratuite ou pour certains journaux qui ne sont pas très
c'est
riches.
C'est vrai dans les Tribunes du Monde, hein, il en écrit un certain nombre signé de n'importe qui.
Oui, on, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'images ou d'informations qui sont reprises. Alors, il y a plein de journaux qui se désabonnent de l'AFP. Pourquoi se casser la tête à payer un abonnement en supposant que l'AFP, quand même, grosso modo, fait un travail assez sérieux, assez rigoureux, que contrôle les informations. C'est si simple de prendre sur Internet. Puis ensuite, si on prend sur Internet, l'avantage, c'est que donc c'est gratuit. Puis si c'est pas bon, on dira, mais c'est pas nous, c'est Internet. Parce que l'histoire de TF1, ils ont dit, c'est pas nous. Hein, ils avaient sous-traité à leur correspondant oui, d'un Nice, qui avait sous-traité à une autre...
Ce matin, qui a une bonne production.
Et une autre boîte. Par exemple, il y a des émissions de magazines à la télévision, je ne dirai pas lesquelles, mais qui font beaucoup appel à des sociétés extérieures, au lieu de faire appel à des journalistes de la rédaction. Quel est l'avantage pour eux? Quand on fait appel à des journalistes de la rédaction, bah, c'est la rédaction qui est impliquée. Et il y a certaines règles qu'on doit suivre et tout, et là, les journalistes peuvent protester si on ne suit pas ces règles, si c'est trop racoleur, s'il y a trop de spectacles. Si on fait appel à des sociétés extérieures, alors, on trouve que le sujet va être bon. Donc, on ne va pas vérifier les informations. Hein. On achète le reportage fait par Gamma, qui vous voulez, ou autre. Il est racoleur où il y a des erreurs. Les gens protestent. Oh, on est désolé, c'est pas nous. On s'est fait avoir. Hein. Nous, on n'est pas du tout impliqués. On l'a acheté et tout. Mais quand les gars présentent leur reportage, s'ils font un reportage qui n'est pas racoleur, on leur dit, mais votre reportage, il n'est pas très intéressant. On ne va pas l'acheter. On l'achète que s'il est racoleur. Puis s'il est racoleur et puis que et ça va trop loin, on dit bah, on s'est fait avoir par le produit qu'on a acheté. Donc il y a beaucoup de perversité.
Ah, justement, enfin, sur cette question...
La chaîne est quand même responsable de ce qu'elle diffuse.
Oui, hein. Elle diffuse. Justement, oui. Sur cette question...
Non, mais ça, c'est sur le plan judiciaire.
Donc c'est apparu cette année sur les élections et c'est vrai que le rapport avec le public serait intéressant si, dans le public, si vous pouvez répondre à ça. Justement, c'est quand vous voyez un sujet, par exemple sur un meeting de Nicolas Sarkozy ou François Hollande et que vous voyez image fournie par le candidat, est-ce que vous, votre rapport, quand vous regardez le sujet, est-ce que vous vous dites, les journalistes, est-ce qu'ils sont indépendants par rapport au pouvoir? Est-ce que je regarde ce sujet, mais ça se trouve, c'est l'UMP qui l'a fait. Quelle relation vous avez, justement, quand vous voyez ça? Est-ce que ça change votre regard quand on inscrit maintenant ces petites phrases, image fournie par le candidat?
Au moins, c'est clair, quand même. Oui, là, pendant... Là,
il y a obligation.
Ça fait beaucoup fait, quand même.
Il y a obligation, oui et non, parce que... oui, non, mais c'est qu'on...
C'est pas une obligation.
Non, c'est pas une obligation, c'est vrai que...
Recommandation du CSA, entre autres.
Voilà, c'est parce qu'il faut donner les sources, quand même. On donne la source de l'image. Alors, c'est compliqué, parce qu'après, il y a une banque d'images, parfois, où on ne met pas les sources.
Oui, il y a beaucoup d'images.
Mais... Ces images-là, on les source en disant ce n'est pas nous qui avons fait les images, enfin nous journalistes qui avons fait le sujet, ce n'est pas nous qui avons fait les images, c'est le candidat qui fournit. Alors justement, vous, comment vous voyez ça, quoi? Est-ce que c'est.
On le voit à travers les cadrages, tout de suite, on voit bien.
Tout de suite, on voit comment l'image est réalisée. Par exemple, pour les meetings de l'UMP, on voyait au premier rang, il n'y avait que les jeunes de l'UMP, et quand on a un peu des plans en profondeur, on voyait quand même c'est des plus de 60 ans qui étaient au meeting quand même. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une façon de présenter l'image qui est particulière. Il y avait plus de gens qui avaient des cheveux comme moi, plus que de jeunes dans la salle en général.
Dans un souci d'équilibre, sur le meeting de Vincennes de François Hollande, il y avait donc des jeunes qui étaient assis et il y avait dans le champ, en fait, il y avait une fille qui était là, puis à côté d'elle, il y avait une fille noire. Et on a fait changer de place de façon à ce que la fille noire soit dans le champ. Bon, mais c'est de la communication. On ne peut pas le reprocher aux politiques. À nous de faire notre boulot de journaliste, de décrypter, de dire, voilà comment ça se passe comme ça. Il ne faut pas que les gens soient aussi trop naïfs, hein, qu'ils ne pensent pas que les politiques, tout ça est spontané.
Moi, je ne voulais pas rebondir sur votre question, je suis désolé. Pour revenir un peu sur le sujet journalisme et public, pendant la campagne, à l'entre-deux-tours, il y a eu un débat télévisé entre les deux principaux candidats. Il paraît qu'il y avait deux journalistes sur le plateau.
Ils ne le savaient pas.
Ils ne le savaient peut-être pas. Ouais, c'était assez triste à voir. J'ai trouvé ça assez triste. Par contre, alors, j'ai entendu beaucoup de personnes qui décriaient les Internet et les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi ce débat et en suivant sur Twitter, en fait, typiquement le débat, et il y avait quelque chose d'intéressant, c'était le fact-checking, le fait de vérifier les faits, donc la véracité des faits. Et ces deux candidats qui ont passé du temps à se balancer des chiffres. D'ailleurs, et comme les journalistes n'intervenaient pas, on ne savait pas, ils disaient ce qu'ils voulaient, alors, en fait.
Oui, justement, le rôle du journaliste, après, a été de montrer que 70% des chiffres donnés par François Hollande étaient vrais et 40% des chiffres donnés par Nicolas Sarkozy étaient vrais.
C'est après dans les journaux.
Sur le rôle des journalistes, notamment dans ce type de débat ou les interviews des présidents de la République, c'est quand même de votre faute, fondamentalement. Hein, parce que ce sont les hommes politiques qui imposent ces règles. Comme les hommes politiques sont élus par nous tous, la consigne très stricte qui était donnée, c'est surtout, hein, vous ne prenez pas parti, vous êtes là pour donner la parole aux uns et aux autres, et pas pour intervenir. Alors on pourrait dire, logiquement, les journalistes devraient dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais on n'y va pas, et personne n'y va.
Moi, c'est ce que j'attends.
Oui, non, mais il faudrait ce jour-là, ça sera une révolution. Quand les présidents de la République choisissent les personnes qui vont les interviewer, et c'est depuis quasiment toujours, enfin, ça avait commencé avec De Gaulle, ça a continué avec Mitterrand et Fabius, qui avait Jean Lanzy qui l'interviewait, ça s'est poursuivi avec tous les présidents. C'est complètement anormal. Cela étant, manifestement, la profession des journalistes de télévision, hein, parce qu'on n'a peut-être pas la même vision ailleurs, mais en télévision, je n'ai jamais entendu, vu une assemblée générale, entendu un syndicat dire, bon, bah, maintenant, cher Pujadas, cher Laurence, Ferrari, vous n'y allez pas. Hein. À ce moment-là, ça serait les directeurs de l'info qui iraient, il y aurait toujours quelqu'un qui irait. C'est un vrai problème. Je sais qu'il faut faire court, mais il y a Paul Amar, je vais le citer, il m'a raconté l'histoire un jour. Il avait accompagné Mitterrand aux États-Unis. Il était chef des services politiques. Et donc, il y a eu une conférence de presse et les journalistes américains, ils posent toutes les questions, hein, sans aucun complexe. Et Mitterrand, dans l'avion de retour, dit oh, les journalistes américains, ils sont formidables et tout. Hein. C'est pas comme vous, les journalistes français qui est timoré. Il les injurie un petit peu. Quelque temps après, Mitterrand fait une conférence de presse. Il y avait les milices communistes qui étaient débarquées, ou je ne sais plus trop quoi, je ne me souviens plus du détail. Et donc Paul Amar pose la question, monsieur le président, est-ce qu'un jour vous reprendrez des ministres communistes? Mitterrand répond à côté. Paul Amar dit, mais monsieur le président, ma question c'est, est-ce qu'il y aura de nouveau des ministres communistes? Et Mitterrand lui répond, mais enfin c'est inadmissible qu'un journaliste pose ce type de questions, je n'ai pas à vous répondre, etc. Donc ça c'est la vie politique française. Sarkozy a fait la même chose avec Geoffrin. Enfin, tous les... Donc quand je dis on est tous là responsables, c'est parce que on disait à nos hommes politiques non, on refuse ces règles, mais on est encore en monarchie. Dans nos esprits, nous sommes des monarchistes, ça se dit.
Monarques.
Des monarchistes, voilà, oui. On a une révérence à l'égard des présidents de la République, qu'ils soient quels qu'ils soient, qui ne correspond pas aux critères journalistiques. Excuse-moi, voilà. Parce que j'ai dit que j'étais court, et puis j'ai été court.
Le nouveau est normal, donc ouais. On verra si ça change.
Oui, bien sûr, alors, tout à fait d'accord. Oui.
Si je ne me trompe pas, ce débat, il est extrêmement cadré par des règles du CSA. Je crois
que les enfin, c'est des règles des partis politiques.
Oui, surtout les partis. C'est les partis qui. Il n'y a pas de plan de coupe, il n'y a pas de. Tous les cadrages, tout ça, c'est. Tout est décidé avant, quoi.
Voire connivant.
Comment ils voyaient
ces journalistes étrangers correspondants de presse à Paris, qu'est-ce qu'ils pensaient du traitement du journalisme politique en France,
Oui, bien sûr.
C'est une véritable honte pour la profession.
Oui. Alors, c'est vrai que cette année.
Oui. Ça remonte à De Gaulle, intervenant De Gaulle, ça remonte à bien avant. En France, on a une tradition de journalistes de révérence. Et ce n'est pas qu'envers les politiques, parce que le rapport des journalistes avec le milieu économique, et notamment avec les grands capitaines d'industrie, c'est exactement la même chose.
Avec les artistes, avec les sportifs, etc. etc.
Est-ce qu'il y a une... De toute façon, le journaliste politique en France, il a toujours été un journaliste de déclaration. C'est un journaliste qui ne fait pas d'enquête sur le terrain, qui ne fait pas de reportage, qui fait très peu d'interviews réelles, où on pose des questions, on essaie de faire en sorte que l'interlocuteur aille au fond de sa pensée, etc. Et avec les tendances au spectacle dans la formation, etc., ça donne une catastrophe. C'est-à-dire le journaliste politique, c'est plus rien, c'est du people. Ça ne peut plus intéresser les citoyens. D'ailleurs, les critiques sont énormes.
Donc ils ont beaucoup d'enfants.
Il y a en plus la connivence, il y a en plus tout ça. C'est un petit milieu d'élite parisienne.
Microcosme, peut-être.
Un petit microcosme de journalistes qui vivent entre eux, qui interviewent les mêmes personnes.
Ils ont couché ensemble.
Pas
les journalistes, non. Ouais. À Sciences Po, oui.
Est-ce qu'il y a une dernière question?
Jean-Michel Apathy, il n'a pas fait Sciences Po, je peux vous le dire. Il a fait l'IUT en session de... Il était ouvrier à ce moment-là et il a fait la troisième année, on appelle ça la promotion sociale. Je sais, j'étais un des enseignants.
Voilà, donc c'est très vaste et c'est vrai qu'on part sur beaucoup de choses après. C'est vrai que c'est... on peut en parler encore toute la nuit, je pense. Donc on va remercier nos deux intervenants, donc Yvan Yes et Jean-Claude Alanic, d'être venus ce soir nous parler un peu de ce malentendu entre les journalistes et leur public. Merci donc à la Ligue de l'enseignement d'avoir organisé le débat et à l'Espace Mendès France de nous avoir accueillis.
Merci surtout à vous de vous être intéressé à ce qu'on a dit et d'avoir échangé avec nous. C'était très sympa.
Je pense que le débat n'est pas fini et qu'il se poursuit au quotidien. Et surtout, mais moi c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à venir dialoguer avec les journalistes. Si y a des choses qui vous dérangent ou qui... c'est pas facile, mais il y a toujours l'occasion.
Ils refusent la critique, hein, souvent.
Donc on va essayer de moins refuser la critique.
Merci.
Merci à vous.